Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Radio Stoub avec plein de chroniqueurs talentueux autour de cette table, avec des petits nouveaux aussi qui vont nous aider à décrypter, comme dirait Alex Ruiz.
Pascal Pro.
Non, nous on est voilà, nous c'est pas notre nous on décrypte pas, nous on parle, on analyse. Et je vais présenter les gens autour de cette table. On va commencer avec les historiques. Alors, on va commencer avec Hathor.
Salut.
Salut, ça va Hathor ?
Bah, je me sens un peu vieux là parce que c'est très rajeuni.
C'est vrai, un Radio Stoub jeunesse, fraîcheur, voilà. Exit les JP d'Arki, les Rougian, voilà, dehors. Place, pouvoir à la jeunesse.
Le centre de formation.
Exactement. On fait confiance aux jeunes. Autre habituel, en tout cas quelqu'un qui est déjà venu ici, c'est Vrombi Mickey.
Bonsoir.
Ouais, on l'excuse, il est en train de terminer son sauciflard, du coup il ne peut pas trop parler. Et puis donc deux petits nouveaux dont on attend énormément. Je vais commencer par saluer Nitro.
Salut tout le monde.
Pas trop intimidé d'être autour de cette table
non,
mythique.
Non, je te décevrai pas, promis.
Eh ben écoute, c'est nickel. Et enfin, le roi de la composition d'équipe dans les CR. Je vous invite à aller lire ses comptes rendus d'après-match. C'est Slade.
Bonsoir.
Voilà. Eh bien écoutez, on va pouvoir commencer tout de suite. On va pouvoir attaquer et dérouler le sommaire de l'émission. On a choisi de commencer, on a choisi de remonter un petit peu le temps pour commencer. On va revenir il y a 2-3 semaines. On va dire 2-3 semaines, c'était le 25 février et le début d'une séquence funeste pour le Racing. C'est le match contre Vannes. Vannes Racing, donc déplacement en Bretagne.
Un mardi,
le 25 février, où le Racing s'est incliné 3-2. Alors, on avait un envoyé spécial à ce match. Il s'agit de Vrombi Mickey.
Ouais.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce match ? Et nous, brièvement, nous dire un peu ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Bah, le match en lui-même, c'était plutôt un bon match. Ça jouait pas mal des deux côtés, ça attaquait. Après, défensivement, c'est vrai que c'était un peu faiblard. Enfin, ça allait pas au duel. On prend le deuxième et troisième but comme ça, d'ailleurs. Bon, trop d'errance défensive, pas assez de pressing. Après, forcément, le scénario, on est mené 1-0, on revient 1-1, on est remené à 2-1. On se dit, ça y est, quand on revient à 2-2, c'est bon, surtout qu'il restait, c'était 89, 21 ou 31 au tableau d'affichage. On se dit, c'est bon, il y a le 2-2. Là, il y a le temps additionnel et la dernière errance défensive et le 3-2 sur une super frappe à 25-30 mètres.
Alors, j'ai lu.
Nous crucifie, quoi.
J'ai lu que c'était dans le contenu que c'était un bon match du Racing. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse ?
Bah, y avait beaucoup d'animation après. Enfin, c'était forcément tourné vers l'attaque, puisque déjà la compo était vraiment tournée beaucoup vers l'offensive avec Perrin, Mendy et Ribas titularisés, donc c'était limite un 4-3-3.
C'était plutôt un 4-4-2 en losange en fait, parce que oui. Apparemment Perrin jouait plutôt.
Perrin n'est pas vraiment monté, ouais, il était voilà. Plus en limite en 10, mais c'est vrai que c'était vraiment très offensif. Donc, et le problème, c'est que ça a été vraiment au détriment de la défense. Quoi. Il y a eu beaucoup de trous. Après, c'est l'attaque, donc on l'a senti, puisqu'on on a mis deux buts, alors qu'on était un peu sur une série un peu molle au niveau des buts. Mais c'est vrai que le gros bémol de ce match, ça a été la défense qui n'a pas assez mis le pied sur le ballon ou même sur le genou. Parce que sur le dernier, quitte à faire faute et prendre un rouge, faut pas prendre ce troisième but, parce que c'est vraiment...
Parce qu'il
faut être professionnel.
Et puis on relance Vannes en fait ce jour-là.
Ah oui, oui. Ben, on a toujours été l'équipe qui relance les derniers. L'an dernier, on accueille Auxerre 2 qui est bon dernier. Il faut qu'il se relance maintenant ou jamais. Ben, on perd à la Méno ou on fait match nul. Je sais plus trop, mais en tout cas, on les relance. Enfin, ça a toujours été comme ça. Et là, Vannes, ça n'a pas dérogé à la règle. Surtout que le stadier me disait, quand il voit les deux buts que Vannes marque, le stadier de Vannes me dit. Même nous, on n'y croit pas, quoi. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas vu une frappe comme ça. Mais naturellement, ça tombe contre nous et on a l'habitude, quoi.
Bah, c'est pas seulement.
Alors, à tort.
C'est pas seulement parce que c'est des buts d'anthologie, oui, comme tu dis.
C'est un
errement défensif. Le premier, c'est sur un corner mal renvoyé par Gauquelin. Normalement, t'as la défense qui doit monter tout de suite sur le porteur du ballon. Au lieu de ça, le mec, il a tout le temps de. Je crois qu'il la contrôle avant de la mettre en lucarne. Ça, c'est le genre de truc qu'il n'y a pas à faire. C'est une erreur défensive. Le troisième, c'est vraiment symptomatique, puisque effectivement, c'est Bellamer qui perd la balle à hauteur de la ligne médiane. Mm. Et le mec a le temps de faire 20-25 mètres balle au pied sans être attaqué. On joue les arrêts de jeu.
Et puis il marche. Enfin, le mec, il marche quand il va frapper. Quoi. Il court pas, il est pas pressé. Le gars, il se balade. Et après, il frappe. Enfin, du coup, le but est quand même moins impressionnant quand tu le vois comme ça. Parce qu'il a le temps de se balader, même d'armer sa frappe, de viser tranquillement à la lucarne. Et personne ne monte dessus.
Mais est-ce qu'ils se disent pas, en fait, oh, y a aucune chance qu'il marque de si loin?
Bah, ce qui est aussi... Enfin, ça peut-être, mais bon, c'est quand même... C'est un risque. Mais moi, ce qui m'avait surtout choqué sur les buts qu'on prend, c'est qu'ils viennent tous du côté droit. Enfin, côté gauche, vu qu'on était en face à ce moment-là. Mais je veux dire, c'est tout le temps Bamba et Grimm qui sont à la ramasse, quoi.
Pourtant, Grimm était pas mauvais sur les matchs précédents. Ouais.
Je aussi sur les deux-là, ça vient tout le temps du côté de Bamba-Grimm. Et disons, toute la place pour frapper, quoi. Le premier, je crois, le deuxième but, il me semble qu'il s'infile dans la surface, il a tout le temps de la frapper. Ouais. Le troisième, pareil, donc comme on l'a dit, il a le temps d'avancer avant de bien s'ajuster pour la mettre. C'est assez bizarre, surtout quand on voit après, bon, on ne va pas enquêter sur la suite. Mais
alors, du coup, il y avait quoi de Strasbourgeois à peu près qui était présent là-bas? Quelle était un peu l'ambiance entre les visiteurs?
De Strasbourgeois qui avaient fait le déplacement, qui étaient partis de Strasbourg, on était un J9 plus une petite dizaine, donc de Strasbourgeois vraiment on devait être une vingtaine. Et par contre, on a, à notre belle surprise, on avait encore une dix-quinzaine d'expatriés, vendéens, bretons et autres qui étaient venus, donc c'était assez sympa.
Voilà, donc je pense qu'on un Racing assez offensif finalement sur ce match.
C'est ça.
Qui a joué, qui a essayé de faire du jeu finalement et qui a été puni par manque de rigueur défensive et qui aurait pu rapporter un nul. Ça aurait été logique.
Mais malgré tout, Lucie Guillotin et Stéphane Godin qui ont souligné quand même que c'était la prestation à l'extérieur la plus aboutie de la saison.
Offensivement.
Voilà, donc normalement ça devait être. Le début de quelque c'est, chose, voilà, d'une série, voilà.
C'est... Voyons ça, surtout que, comme dit, la compo avait été plus offensive, ça avait servi dans le match, puisque c'était vraiment agréable et séduisant à voir.
Et que précédemment, on restait en plus sur une bonne série, voilà, une série correcte.
On était à quoi, 4 ou 5 matchs sans défaite.
On pouvait penser à une bonne défaite, on aurait pu penser à l'époque.
Une défaite porteuse d'espoir.
Un peu rageante, quoi, mais voilà. Alors, je pense qu'on peut passer du coup au match suivant. Parce qu'on va voir, en fait, que cette défaite n'était pas porteuse d'espoir.
non.
Voilà. Le match suivant nous emmène à la Méno, donc pour où le Racing accueillait le Paris Football Club. Et là, douche froide, puisque le Racing s'incline 2-0.
Comme à l'aller.
Exactement. Oui, comme à l'aller.
C'est ça.
Donc c'était le 1er mars, voilà. Alors là, il y avait plus de monde qui était présent à ce match-là. Alors du coup, on va peut-être écouter ce qu'on a moins entendu pour l'instant. Je sais pas si c'est Nitro veut commencer à se lancer. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match?
Je pense que ce qui était marquant sur le match, c'était quand même le contraste entre la première et la deuxième mi-temps, tout d'abord. Et surtout cette première mi-temps où on arrive à déborder la défense de Paris assez facilement. J'ai pas trouvé qu'on avait franchement de difficulté à faire du jeu ce soir-là. Le problème, c'est que c'était même pas le dernier geste qui a pêché, c'était l'avant-dernier. C'est-à-dire qu'avec la qualité des centres de Pino et de Bamba ce soir-là, on n'a même pas eu l'occasion d'avoir justement une occasion sur une quinzaine de centres peut-être dans le match. C'était terrible, voir en plus du quart de virage, quand on voit autant de centres à 10 mètres de nous faire être contrés, même pas sortir en corner, que ça se répète et que ça arrive pas. Ça a été justement, on a dit à l'instant que le précédent match il était porteur d'espoir. Là c'était plutôt du désespoir, qu'on avait l'impression qu'on aurait pu jouer des heures et des heures sans jamais marquer parce que la qualité des centres elle était pas là.
Mais alors, venant de Pino, c'est un peu surprenant quand même.
Non, Pino, il réussit jamais aucun centre depuis la CFA2.
En CFA2, il réussissait. Oui.
Enfin, il avait du mal, hein, mais il avait franchement du mal.
D'accord, en début de saison, ça marchait bien. Hein, il était à 7 passes décisives, je crois.
Mais voilà, mais après,
vous trouvez qu'il n'a pas une qualité de centre extraordinaire?
La finition, il a toujours été connu comme il est très remuant, mais dans la finition, on a déjà vu faire des ratés.
Ah oui, devant le but.
Le but, c'était là aussi, ils m'ont des lacunes.
Alors après, sur Bamba, on a un peu moins de recul parce qu'il a fait beaucoup de matchs. Est-ce qu'il avait montré plus de capacité sur les centres à d'autres matchs?
Son premier match.
Son premier ballon.
Voilà.
Pareil, porteur d'espoir.
Oui, exactement.
Mais
après, les deux ont un peu le même profil. C'est le côté...
Slide.
Ils débordent et après, ils reçoivent une faute, soit ils font une passe un peu en retrait, un peu mal ajustée. Mais aucun n'arrive vraiment à faire des centres corrects de 20-25 mètres, bien sentis, bien finis. Quoi. À part sur Adpino, sur Lienard, il y a... 4 semaines, 5 semaines.
La tête
La tête de Lienard avec le centre.
Oui.
Oula. C'est vraiment
très juste, non, il me semble.
Ah, peut-être
qu'on gagne 2-0.
C'était un peu le seul.
On n'a pas gagné beaucoup, donc
Fréjus ou Colomiers.
La Fréjus plutôt.
Mais effectivement, sur, en plus, sur le premier, la première mi-temps du Paris FC, c'est vrai qu'on était, était vachement stéréotypé, puisqu'effectivement, on passait que sur les côtés parce qu'il y a des intervalles énormes dans la défense. Mais jamais on percutait dans l'axe. Et ça, c'est un problème qu'on avait déjà noté sur les matchs précédents. C'est que le Racing n'attaque que sur les côtés, finalement. On n'a personne dans l'axe qui peut faire une percée et amener un peu le danger, ou même agglutiner un peu les défenseurs pour libérer d'autres espaces.
Après, dans l'axe, il n'y a pas forcément de place pour passer dans l'axe.
Il y avait quand même Bellamar qui, au début, avait montré un petit peu de technique. On se disait, tiens, ça pourrait être une solution, mais disparu des écrans. Mais Bellamar, même, il n'a pas le physique. Déjà.
Oui, voilà, quand t'as trois défenseurs voilà, centraux de surtout, fort beau voilà, gabarit,
on me semble qu'il avait joué à Amiens. À Amiens, il y avait une muraille devant, c'était des monstres physiquement, il n'a rien pu faire. Mais c'est vrai que techniquement, on s'attendait à ce que ça soit peut-être une solution pour justement ce poste-là.
Il y avait même au final.
C'est vrai qu'on est un peu déçu de la baisse de régime de Bellamer.
Moi, je trouve qu'il avait, il avait vachement bien commencé. Mais je trouve que tout de suite, au bout de quelques matchs, on a quand même senti que le mec il venait de division inférieure, oui, que physiquement il n'était pas forcément au niveau, parce que le national c'est quand même c'est ultra stéréotypé. La plupart des équipes qu'on voit, c'est à 10 derrière, on balance devant vers un mec qui court vite et qui va essayer de la mettre au fond. Et Bellamer, je trouve qu'on a quand même vite senti, le mec, il a du ballon, ça c'est clair et net, c'est indéniable. C'est, même si Kimmich, je crois, l'avait dit quelques semaines après sa recrue, il a dit je vais le prendre sous mon aile parce qu'on sent que ce mec-là, il avait quelque chose. Mais le problème, c'est que physiquement, des fois, il vole. Et on a d'ailleurs le but contre Vannes où il perd le ballon. C'est bon, d'une part, je trouve un peu d'insuffisance parce que je trouve qu'il va quand même vachement facilement face à deux adversaires en fin de match. Mais il n'a pas réussi à. Au contraire de Mendy, par exemple, je trouve que. Un des mérites qu'il a, c'est que quand il contrôle le ballon, c'est quasiment sûr que le défenseur derrière, il va rebondir sur lui. C'est, au contraire, lui, c'est spectaculaire, quoi. À 19 ans, avoir une telle masse corporelle, avoir tellement de puissance, c'est un peu comme Lukaku à l'époque, où on se disait que c'était pour son âge, il avait une puissance délirante, quoi.
Comme le mec de la Lazio aussi.
on appellera celui qui a fait son passeport.
Ah mais Bellamer, en plus au début de saison, il jouait vachement sur l'enthousiasme. Il n'était pas forcément au-dessus
de lui
physiquement. Voilà, ouais. C'est l'enthousiasme, c'est le fait de découvrir le national, de jouer au Racing. Et là maintenant, il commence à plafonner. Et c'est pas forcément les conditions idéales pour lui pour progresser. Donc effectivement, je pense pas qu'on puisse compter sur lui.
Là pour la fin de saison, les matchs un peu de costaud,
voilà,
il sera pas là. C'est pas sur lui qu'on pourra se reposer.
On n'a pas forcément de costaud, mais bon.
Oui,
c'est ça le problème.
Non, mais des matchs un peu à la con où ça va être au couteau tiré.
Quand des équipes comme le PFC.
Des matchs dégueulasses.
Derrière.
Voilà. Bah, donc vivement la saison prochaine pour revoir ces fulgurants, si possible, en national. Du coup, sur le Paris FC.
En vrai, Paris FC a quand même super bien joué le coup. Enfin, les mecs, c'est quand même.
Ils ont fait leur match. Hein. Ils ont appliqué le plan. Ils ont défendu. Ils ont pas pris de but et ils ont marqué en contre.
Quand ils font la passe décisive, ils font la vraie passe décisive qui est vraiment bien ajustée. Quand ils vont marquer, le mec, il a eu deux occasions. La deuxième, il est pas facile à mettre. Enfin, il est à 20 mètres face à Gauquelin.
C'est un bel roulé du pied droit. Hein. C'est la Thierry Henry.
Ouais. Enfin, Black.
Ce que j'ai trouvé.
Vrombibiki.
À l'aller, on fait exactement le même match. On prend exactement le même score et on le prend exactement de la même manière. À part le premier où il me semble que c'est un peu plus ou moins une attaque placée, le deuxième c'est un contre-attaque.
Voilà, la première c'est une attaque placée. Enfin,
je parlais au match aller.
Au match aller,
les défenseurs se faisaient prendre dans le dos. Oui,
c'est exactement le même match.
Exactement.
On se fait avoir comme des enfants alors qu'on était prévenus par le match aller. Sauf que j'imagine qu'ils avaient dû voir des vidéos ou quoi. Ils savaient très bien comment allait jouer le Paris FC et ils reprennent le match.
Sauf que la pelouse était meilleure.
Sauf qu'il y avait un terrain.
Voilà. Donc, et le Racing trop naïf du coup sur ce match?
Je pense que c'est vraiment de la naïveté parce que, comme dit, ils étaient prévenus, ils en prennent deux à l'aller en se faisant prendre de vitesse. Donc, au match retour, ils ont le premier, ils le prennent de vitesse et ils arrivent quand même encore en
prendre un
quatrième de la même manière.
Donc est-ce une défaite rageante du coup?
C'est une défaite stupide.
C'est
une défaite stupide. Les mecs, ils bossent une semaine sur la vidéo. Le premier match, ils sont fait prendre pareil. Ils savent que Paris FC, c'est vraiment l'équipe type de National qui défend à 10 derrière. En plus, ils ont l'entraîneur pour ça.
L'entraîneur est réputé pour ça.
C'est le
Vitaine,
ouais, il était, je sais plus,
voilà. Alfortville.
Voilà, le mec, il est né pour. Les joueurs sont là pour ça. Enfin, les gars, ils bossent la vidéo une semaine. Ils sont prendre sur deux buts qui sont l'exemple type du National. Et sur le deuxième, c'est encore plus rageant parce que les gars, ils sont à 50 mètres de leur but. Quoi. Enfin, c'est ridicule.
Est-ce que c'est un problème tactique? C'est François Keller qui a été naïf, qui a demandé à ses joueurs de se jeter à l'abordage, entre guillemets.
Ils sont pas forcément jetés à l'abordage. C'est le premier but, en fait, c'est surtout une erreur de placement d'Oliveira.
Enfin, un corner.
Bah, Oliveira se met devant le tireur, je crois que c'était Liénard, pour feinter le corner à 2. Sauf que derrière, on perd le ballon et le PFC il se lance à 3 en contre-attaque. Donc ça fait un 3 contre 3. Oliveira qui essaye de revenir désespérément mais qui n'y arrive pas. Et le mec a fait juste une transversale dans le dos de Bamba et t'as le mec tout seul qui a juste à ajuster. Donc il y a une erreur de placement d'Oliveira qui n'était pas positionné en retrait en sécurité après le corner. Et il y a une erreur de Bamba qui lâche le marquage de l'avant-centre Toko.
Donc est-ce qu'on peut incriminer François Keller là-dessus? Est-ce que c'est ces consignes générales qui ont été mauvaises? Ou alors est-ce que ce sont des petits manques de vigilance de certains joueurs qui ont provoqué cette défaite?
C'est plutôt les erreurs individuelles. Hein. Enfin,
là, je suis assez d'accord.
Nitro, tu es d'accord?
C'est comme le match contre Vannes. Au final, certes, à Vannes, on perd, en plus, avec des conditions un peu bizarres. Parce que les buts qui ont été mis, c'est hallucinant. Mais sur le match, on a quand même des occasions. Au final, malgré ces buts-là, on a assez d'occasions dans le match pour en mettre une, avec un mec en plus comme Ribas dedans. Mendy aussi a eu quelques occasions. Il aurait quand même dû même encadrer une ou deux au moins. Et contre Paris, c'est pareil. C'est au final, quand on voit la première période, parce que la deuxième, c'était un non-match, ça voulait rien dire. Quand on voit la première période, le plan fonctionne jusqu'à ce que les joueurs fassent une erreur technique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce déchet technique et ces erreurs techniques qui nous amènent ensuite à subir des contre-attaques et des contre-idiots. Après, est-ce que François Keller aurait dû anticiper que les joueurs n'avaient pas forcément le niveau pour faire du jeu comme ça? Parce que bon, c'est facile à dire, on veut du jeu, on veut des déplacements, etc. Mais en attendant, en national, il y a très très peu d'équipes qui arrivent à faire ça, et on se rend compte qu'au final les joueurs ont peut-être pas forcément le niveau pour faire des matchs de ce genre en faisant du beau jeu, et que quitte à se faire chier, qui défendent et qui partent en contre, qui jouent physique, alors, comme la saison dernière, hein. Enfin, la saison dernière on s'impose quand il y a Mofa et Koulibaly.
D'un autre côté, là le Racing, et quand ils reçoivent le Paris FC, ils sont quand même en situation un petit peu délicate, hein, pour le maintien, même s'ils étaient au-dessus de la ligne de flottaison à l'époque.
On est plutôt sur une bonne dynamique quand même.
Mais hein, il fallait quand même prendre des points. On sortait d'une défaite à Vannes, voilà. Donc, quand tu reçois le Paris FC qui n'a plus rien à jouer cette saison, ouais, on peut dire. Donc, eux, les mecs, le Paris FC, de toute façon, ils vont venir, ils vont mettre l'autobus devant. De toute façon, donc si on fait pareil qu'eux, au mieux, on aura un 0-0. Sauf si c'est un miracle. C'est-à-dire que là, on est quelque part. On est obligé d'attaquer un peu, parce que sinon, c'est pas les mecs en face qui vont le faire, vu qu'eux, ils n'ont plus rien à jouer. Et déjà, même les équipes, quand elles ont quelque chose à jouer en face, elles se jettent pas sans l'abordage. Mais donc, je pense que là-dessus, on a eu raison d'essayer de jouer. Après, évidemment, à la moindre erreur technique d'un joueur important qui a plus grand monde derrière lui, bah ça peut, la sanction peut arriver.
Est-ce que ça aurait été si infamant de faire 0-0 à domicile dans la situation?
Bah, pour alors, on reprend un peu ce que vous dites tous les deux. Déjà, tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied parce qu'effectivement, on savait qu'ils allaient jouer à 10 derrière, donc éventuellement, pourquoi pas nous jouer à 10 derrière aussi. Comme dit, le 0-0 n'est pas forcément infamant, puisque on était en mal de points, comme tu l'as dit, donc prendre un point, pourquoi pas. Et surtout que si on joue, nous, à 10 derrière, et qu'on les attend, ça fait de l'espace chez eux. Parce qu'on sait comment ils jouent, donc s'ils jouent regroupés à 10 derrière, c'est que forcément ils doivent avoir des lacunes s'ils sont s'ils s'ouvrent. Donc à la limite, si on avait joué nous aussi à 10 derrière et qu'on les avait attendus, on aurait peut-être pu éventuellement.
Ils seraient peut-être pas venus.
Mais alors au pire ils viennent pas, et on fait 0-0 voilà. Et on prend un point. Dans la situation où on était actuellement, prendre un point, c'était pas catastrophique.
Je pense qu'on reparle de ça plus tard. Alors on a Hathor qui fait des grands gestes et qui a sur ses fiches a noirci une citation qu'il veut faire partager.
Bah, c'est par rapport à ce qu'on disait sur le fait de proposer du jeu à la méno. Il y a une déclaration qui était quand même assez curieuse de François Keller en fin de match, qui disait que lui ne pouvait pas proposer un jeu défensif à la méno de peur de voir l'affluence baisser. Parce qu'il disait, si tu proposes ça, tu te maintiendras. Donc c'est un peu ce qu'on veut. Mais il y a 9 à 10 000 personnes qui viennent. Il ne faut pas qu'il y en ait 2 à 3 000 le match d'après. Donc personnellement, je n'ai pas trop compris ça. Puisque pour moi, on joue pour faire un résultat. On ne joue pas forcément pour faire du jeu, surtout en national. Enfin, les gens qui viennent ne viennent pas pour voir du beau jeu. Ça se saurait.
Bah même depuis 2 ans au final, hein. Depuis voilà, la CFA2, il n'y a pas un jeu, flamboyant, j'ai jamais eu du bon jeu depuis 2 ans. Mais
les gens viennent gagner,
donc ça suffisait aux gens.
Je pense que les gens ils vont au Racing. Et
voilà. S'ils viennent voir le foot là,
ils vont, ouais, c'est ça, ils vont pas voir les arabesques de Jérémy Grimm et. je pense pas. Donc c'est vrai qu'elle est étrange, elle est curieuse cette phrase. Alors est-ce que c'est une phrase sortie sans réfléchir, ou alors est-ce qu'on lui a mis la pression, je sais pas. Alors cela est une explication.
Enfin c'est pas comique. Quand tu le vois parler en conférence de presse, il est calme, il est posé. Enfin il dit ça d'une manière. Enfin pour moi c'est presque évident que quelqu'un lui a pas soufflé, mais lui a mis la pression pour qu'il y ait du beau jeu. Enfin, pour moi, un entraîneur n'a pas du tout à parler de l'affluence d'un match. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est être maintenu. Et surtout, après un match où tu perds 2-0 sur des erreurs aussi connes, tu n'as pas le droit de dire à la fin, bon voilà, nous on fait du beau jeu, quitte à descendre, on aura 10 000 personnes à la maison. On s'en fout des 10 000 personnes. Enfin, je suis désolé, mais on peut être 500. Moi, si on se maintient, ça m'ira aussi. Quoi.
Surtout dans notre situation, genre un club lambda qui est installé en national, qui financièrement arrive à gérer, etc. Le fait qu'ils mettent en place toute une politique de faire du beau jeu avec les jeunes aussi, d'essayer de les faire jouer, pourquoi pas. Mais je trouve que par rapport à la situation du Racing, depuis 3 ans, c'est clair, il faut avancer, monter, et c'est tout, point final.
Il faut des résultats.
Hein. Un moment, enfin, on va pas rappeler tout ce qui s'est passé avec toutes les histoires, mais à un moment, quand on a parlé de la disparition du club, aujourd'hui, il faut... Enfin, voilà, pour moi, l'objectif maintenant, c'est de monter le fond de jeu. Ok, quand on sera installé en Ligue 2 et qu'on aura vraiment retrouvé le Racing, etc., quand on aura retrouvé le vrai Racing en Ligue 2, statut professionnel, là, pourquoi pas se pencher vraiment sur la politique. Mais pour moi, maintenant, il y a une urgence. C'est tout d'abord de rester en national et de poursuivre la remontée qui est opérée depuis 2 ans. Le fond de jeu, franchement.
Mais alors, moi, je vois pas qui aurait pu mettre la pression à François Kerr là-dessus, parce que.
Son frère.
Non, mais son frère. Voilà. Son frère, il est président. Il a un club qui a 2 doigts de descendre en CFA. Son frère, je pense, est assez grand pour se rendre compte qu'une descente serait catastrophique.
Non, il a besoin des affaires
financières. Mais oui, il a besoin. Non, mais non. Moi, je pense pas. Je pense qu'il est pas complètement débile, Marc Keller. Et lui, il sait qu'il faut que le club se maintienne. Parce que si le club descend, c'est lui qui va devoir gérer la merde. Donc, à mon avis, c'est une phrase sortie. C'est une phrase débile.
Après, il faut
sortie comme ça.
C'est pas non plus genre il faut faire du beau jeu quitte à descendre. C'est plutôt faire du beau jeu quitte à se maintenir dans un peu plus longtemps que faire à 10 derrière et se maintenir dans 4-5 journées. C'est vraiment ça.
Depuis longtemps. Enfin, ça fait quelques mois qu'on dit ça. Enfin, maintenant, il reste 10 matchs. Il faudrait maintenant. Voilà, c'est. Après, voilà, depuis 2 ans, il faut aussi se souvenir que le Racing n'a jamais été aussi bon et aussi fort que quand il était dans une opération commando, comme c'est un peu le cas en ce moment. La fin de saison dernière, c'était les 8 derniers matchs, c'est un miracle. Si on monte, à mon avis, si on rejoue les 8 matchs 9 fois sur 10, je ne suis pas sûr qu'on monte à la fin. Parce que Grenoble, je me souviens encore du retourné sorti par Gauquelin, c'est à chaque fois que je le regarde, je pense encore qu'elle va y aller. Quoi. Mm. Et au final, même Vesoul était devant nous pas mal de temps, il me semble, en CFA2. Au final, on les grille sur la fin. Donc voilà, il faut espérer que...
Pas tout à fait sur la fin.
Voilà, pour cette saison, pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai que si jamais, par bonheur, on arrive à se maintenir en national, là, on pourrait commencer à mettre des exigences parce que Strasbourg recommencera à vraiment grandir. Mais pour l'instant, il faut des points, il faut se maintenir, point final.
En vrai, pour l'affluence, on peut aller jouer contre Mulhouse, on fait 20 000 personnes. Si vous de l'affluence, on peut retourner en CFA, mais ça ne me dérange pas. On aura 20 000 personnes à la Méno. Par contre, on sera en CFA.
C'est pas bête, on verra d'ailleurs, il y aura bientôt le match contre Montpellier. Là, on pourra faire un peu d'affluence.
Sauf s'il est à huis clos.
Alors, on n'espère pas en arriver à de telles extrémités. Je pense qu'on a fait le tour du coup sur le match contre le PFC.
On va pas juste dire aussi.
Alors, à tort.
Sur le PFC, on soulignait le contraste entre la première et la deuxième mi-temps. C'est vrai que la deuxième mi-temps, tu disais Nitro, il y avait rien. On ne s'est pas créé une seule occasion. On n'arrivait plus à enchaîner 3 passes, comme si les joueurs avaient lâché mentalement en fait. Parce que c'est quand même surprenant un tel écart dans le comportement.
Et le retour des vestiaires en plus. Enfin, c'est pas oui, 60e après le but, c'est vraiment dès le retour des vestiaires, dès la 46e, on a la balle, on est à la 50e, enfin à 50 mètres, on fait rien. On fait strictement rien.
Parce que mon voisin de tribune, qui est un illustre stoubiste, disait que si les joueurs avaient voulu lâcher François Keller à ce moment-là, ils se seraient pas pris autrement. C'était assez impressionnant à ce niveau-là.
Eh bien,
c'est une bonne transition pour Luçon.
Bonne transition pour Luçon, tout à fait. Donc, on va en arriver à. On va remonter encore. Enfin, on va revenir un peu dans des dates plus récentes. On arrive au 7 mars. Oui, c'est ça, le 7 mars, où le Racing s'est déplacé à Luçon, en Vendée. Et je crois que personne autour de cette table n'était à Luçon. Non. Donc, on va être relativement bref sur ce match. Luçon, c'est donc une défaite du Racing 1-0. Voilà. Alors, que peut-on dire qu'a-t-on sur ce match? Alors, on va écouter à tort.
Parce que j'ai pris des notes.
Qui a potassé.
On peut souligner que sur ce match-là, pour la première fois de la saison, on jouait en 3-5-2. Donc là, on a adopté la tactique du PFC. Donc on a décidé de garer le bus pour essayer de prendre un point à l'extérieur dans une situation, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Sauf que, bon, on n'a pas vu le match, mais d'après les observateurs, c'était un match, je cite, minable. Donc, effectivement, donc un contrat concurrent là, pour le maintien, on pouvait quand même espérer un sursaut d'orgueil, puisque je pense que sur le papier, on a quand même des meilleurs joueurs que Luçon. Donc, là-dessus, c'était quand même assez difficile, donc une défaite très inquiétante.
Défaite inquiétante. Alors, quelqu'un a-t-il un commentaire à faire de plus sur ce match ? Non, il y a juste des gens qui veulent boire, voilà. Donc oui, quand même, pour situer au classement, Luçon, c'est aujourd'hui, alors c'est le 14e, donc c'est vrai que c'était un déplacement important. C'est vrai qu'un match nul, ça aurait pas été du luxe. Ça aurait été...
On gardait l'écart avec eux.
Voilà, on gardait l'écart avec eux. Dans une situation où on n'était pas au mieux, ça aurait pu être pas mal. Et donc c'est dans ce contexte où, après avoir fait un bon mois de janvier, le Racing donc enchaîne 3 défaites. Et c'est là que y a donc une semaine qui se cruciale, censée être cruciale pour l'avenir du club, qui s'est déroulée. Et on va revenir un peu sur cette semaine. Avant de parler donc du match contre Boulogne, on va parler de la semaine qui a précédé, vu qu'on a appris en début de semaine, eh bien que Marc Keller allait faire le tour des différents actionnaires du club pour savoir si on conservait François Keller, donc son frère, à la tête de l'équipe première.
C'était même juste après le match.
Voilà,
hein, dans les déclarations d'après match, ils en parlaient.
Oui. Voilà, donc, et puis il y a 2-3 jours sont passés. Mmh. Et donc en début de semaine, je ne sais plus si c'était mardi ou lundi ou mardi.
Oui, dès lundi, je crois.
Dès lundi, donc on a appris que François Keller était maintenu et que le groupe à l'entraînement allait être réduit à 18 joueurs. Voilà, donc pour resserrer un peu le groupe. Alors, on va un peu commenter cette fameuse semaine. Alors on va commencer, je sais pas, qui veut prendre la parole, Slade ? Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé ?
La première réaction à noter, c'est que quand Marc Keller a proposé le fait que son frère puisse un jour démissionner, se faire virer d'une manière ou d'une autre, c'est qu'il y a une réaction sursaut, pour ma part j'étais plutôt déçu, parce que François Keller c'est le mec qui a vraiment fait de cette équipe ce qu'elle est vraiment maintenant nationale, mais d'un côté on a tous un peu au fil des joueurs accepté le fait qu'il puisse partir pour pouvoir céder sa place, plus ou moins, enfin il y a eu grosso modo, pour ma part, j'étais, il part, et non qui. Et puis lundi matin, c'est un peu à contre-pied qu'on apprend qu'il reste, parce que rien n'était vraiment destiné pour qu'il reste. Pour ma part, c'est vraiment surpris totalement.
Ah, donc toi, tu pensais vraiment qu'il allait, qu'il allait partir.
Vraiment accepter le fait qu'il puisse partir en jour.
Donc t'avais un petit pincement au cœur pour des raisons affectives, presque, on va dire.
Bah non, parce que c'est vraiment à noter que sa première saison, puis sa deuxième saison Racing, était vraiment réussie, puisque simplement on est monté, mm-hmm. ses objectifs. Après, il a fait une saison en demi-teinte, mais au final, qui n'est pas non plus tout à jeter, à part l'extérieur. Au final, on fait pas des masses. On est plutôt dans la course de maintien. Mais après, c'est vraiment déçu, mais au final, j'ai dit bon, d'accord, maintenant qui ?
Alors, est-ce que vous pensez que Marc Keller a vraiment sérieusement envisagé de limoger François Keller ? Ou alors, est-ce que c'est un coup de com', juste pour faire semblant et pour dire, ah, vous voyez, c'est mon frère, mais je ne m'interdis pas d'envisager de le virer ? Voilà. Alors, est-ce que c'était de la stratégie, ou alors vraiment, vous pensez qu'il a sérieusement appelé les 11 gugus du tour de table et dire bon, on le vire ou pas ? Alors, qui répond à cette question ? Nitro ?
Moi, si je devais me positionner, je dirais qu'il l'a vraiment fait. Je pense.
Je pense qu'il était prêt à le faire.
Moi, je pense que ces histoires de frères, déjà de annoncer qu'aujourd'hui, si François Keller n'est plus entraîneur du Racing, je pense qu'il ne sera jamais question qu'il parte du Racing avec ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il resterait formateur ou quelque chose. Enfin, je pense pas, je le vois pas. Je vois pas le Racing le jeter dehors, alors que pendant 2 ans, il a quand même fait des choses assez remarquables et qu'on lui doit beaucoup.
Pendant 20 ans.
Ouais, en plus. Mais voilà, c'est un peu l'apogée, parce qu'il y avait plus d'exposition. Donc voilà, moi je pense. Marc Keller, au final, on peut le critiquer sur certains aspects. Il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord avec lui, mais au final, c'est quand même un mec assez intelligent et je le vois pas. Enfin. Je le vois pas mettre en... C'est quand même l'actionnaire majoritaire, il y a quand même l'argent de Kildorf aussi derrière, dont il est responsable. Je le vois pas mettre en péril le club pour sauver la tête de son frère, alors que les deux, tels qu'on les voit dans la presse, ont l'air d'être des mecs assez francs et qui n'ont pas vraiment peur de se dire les choses en face.
Non, mais Marc Keller a vraiment appelé les actionnaires, donc c'est les actionnaires, l'unanimité, qui ont maintenu... Qui ont maintenu François.
Donc a priori, ce n'était pas un coup de bluff, il y a vraiment eu discussion. Alors,
je pense que c'était surtout parce qu'ils trouvaient personne d'autre. Enfin, c'était à ce moment-là de la saison. Je sais pas.
Alors, parce que oui, alors c'est vrai. Donc, si on le vire, c'était pour qui aurait-on pu installer. Alors, en dehors des, en dehors donc des blagues de notre ami Vrombi Mickey. Alors, soit il y avait la solution externe. D'aller chercher quelqu'un, mais là en effet il n'y a peut-être pas des bases de solution.
Pour une mission de 3 mois, je ne sais pas si on trouve quelqu'un.
Voilà, ou alors en solution interne, qu'est-ce qu'il y avait alors ? Quelles étaient les solutions internes ?
À 5 actionnaires dire bon, pour 3 mois, dans l'absolu, pour 3 mois, ça ne paraît pas. Voilà.
Non, ah. Mais ça fait quelques années qu'il n'entraîne plus.
Hein. Ouais, c'est peut-être plus, je pense.
Non, depuis, il était en Arabie Saoudite.
D'accord.
Il était président de la fédération tchèque.
D'accord. Donc non, personne n'aurait pu. Donc vous pensez qu'il était maintenu par défaut du coup parce qu'il n'y aurait eu personne. Alors oui, est-ce que Christophe Frempe aurait pu donc l'homme de l'ombre.
Enfin, on y arrive.
Voilà. Est-ce que c'est lui qui aurait pu être installé à la tête de l'équipe première si François Keller avait été démis de ses fonctions?
Je pense pas. J'avais lancé ça un peu comme une boutade parce que c'est un mec, c'est vrai qu'il, tu sais pas ce qu'il fait là, enfin il est là tous les matchs de la 1, de la 2, des U19, il est là chaque entraînement,
c'est bien un actionnaire qui est présent.
Ouais, enfin bon,
non, parce qu'il y a des mecs qu'on n'a jamais vu à la méno, on trouvait ça nul.
Une fois à l'USNAC ou un hélicoptère, on sait pas
quoi. Là il y a un bonhomme, il est là tout le temps, on fait oh là là, il est là tout le temps, c'est pas bien.
Non, alors, mais bon, c'est le personnage est assez spécial quand on le connaît. C'est un mec un peu impulsif. Enfin,
voilà,
un personnage un peu détestable.
Un homme haut en couleur.
Voilà.
Alors, donc, on va en rester là pour le.
Après.
Ah oui, à tort.
Je finis. Sur les entraîneurs libres qui restaient, il y avait quelques noms qui étaient intéressants, qui auraient pu convenir. Par exemple, un Daniel Sanchez.
Lui viendrait de fin, je pense.
Voilà.
Il y a la fin de la saison dans quelques mois, à mon avis, il y a des postes en Ligue 1, Ligue 2 qui vont se libérer. Il va faire partie des prétendants.
Oui, vous
connaissez le cercle français où tout joue entre.
Vaut mieux attendre cet été pour essayer d'avoir un poste ailleurs. Ah, oui. Donc effectivement, sur les entraîneurs en chômage, les bons, on ne les aurait pas eu. Restait vraiment la lie des entraîneurs français. Je crois qu'il y avait du Victor Zvinka, des mecs comme ça.
Finalement, est-ce que c'est pas le même problème qu'on a eu Est-ce que c'est pas le même problème qu'on a eu au mercato hivernal pour les joueurs? C'est-à-dire que on est dans une division un peu bâtarde où on n'a pas de statut pro, où on est sportivement dans une situation trop pourrie pour attirer des mecs qui tiennent la route. Et du coup, on doit vraiment bricoler et on n'a pas trop de marge de manœuvre.
Non, mais là, c'est encore pire, puisqu'un joueur, éventuellement, lui, il peut rester 6 mois, se relancer un peu et partir ailleurs. Un entraîneur, lui, c'est plus compliqué. S'il venait ici pour une mission de 3 mois, qui faisait descendre le club en CFA, même si c'était pas sa responsabilité, il se retrouvait sur le carreau cet été avec l'étiquette « a fait descendre le Racing en CFA ».
Voilà.
Et donc après, là, pour trouver un boulot, c'est beaucoup plus compliqué.
Voilà, on va en rester là pour François Keller. Maintenant, je propose qu'on parle un petit peu de cette décision de resserrer le groupe. Oui, c'est une décision qui a été prise. Donc apparemment, il y a je ne sais plus combien de joueurs dans l'effectif de l'équipe première.
28.
Enfin, officiellement.
26.
Voilà, et donc, oui, c'est restreint à 18. 26, ça a été choisi d'être restreint à 18. Alors, je vais lire un... Non, je vais pas lire. Je vais rien lire. Je vais juste citer dans deux mémoires deux Stubis que j'ai lus. Il s'agit de Mostovoy et de Chris68. Oui. Qui disait que ça c'était un peu de la com, parce que de toute façon, si on enlevait les mecs blessés et les mecs en énorme méforme type Stéphane Noro, de toute façon il restait 18, peu ou prou 18 joueurs, et donc de dire enfin, et puis en plus toutes les semaines ça peut changer, le groupe peut être à nouveau, on peut réintégrer des gens. Donc est-ce que c'est pas là pour le coup, est-ce qu'on n'est pas dans la com et qu'en fait finalement ça n'a pas changé grand chose?
Non, ça peut.
Alors à tort.
Bah ça peut restreindre le groupe à 18, ça peut aider, puisque tu travailles par exemple des combinaisons que tu exécutes en match, que tu ne peux pas forcément travailler quand tu es à 26, ou pour certains tu as un objectif de remise à niveau, t'en as d'autres des blessés qui ont un programme spécifique, donc au niveau du travail tu peux pas forcément te concentrer sur le jeu.
Mais alors, si c'est si bien que ça, pourquoi on le fait pas toute la saison?
Justement, c'est
parce que
pourquoi c'était pas déjà
pourquoi toutes les semaines, n'importe quel club pro ne dit pas, bah là, on va s'entraîner avec les mecs bah, qui sont susceptibles de jouer le week-end prochain.
Alors, en pro,
moi, ça me, semble du, bon sens.
Alors, en pro, on peut pas, puisque la charte UNFP stipule que les joueurs qui seraient mis à l'écart doivent être quand même sous la houlette d'un coach titulaire du DEPF.
Bah, les clubs pro arrivent à le faire, ça. Ils arrivent à placardiser les gars avec un mec qui a bon diplôme.
Tous les clubs n'ont pas de...
Anigo vient à peine d'avoir le DEPF.
D'accord.
Donc si l'OM faisait ça, ils étaient dans l'illégalité la plus totale.
D'accord. Donc y avait... ça se fait pas forcément pour des raisons de diplôme. Bah, mais le Racing n'est pas tenu à ces exigences-là.
Pas en national.
Pas en national.
D'exigence de DEPF.
Alors pourquoi le Racing n'a pas fait ça depuis le début de la saison nationale? Pourquoi on se traîne un Stéphane Doro depuis 3 mois à l'entraînement alors que le gars, apparemment, n'est plus du tout dans le coup?
Ça me paraît simple, c'est juste pour l'ego des mecs. Enfin, t'en vois pas un mec qui joue en national de temps en temps, s'entraîner à 18h avec la DH. Enfin, ce matin d'ailleurs, ils l'ont dit, enfin, je sais plus qui l'a dit, mais que voilà, ça se passait très mal pour certains mecs, ils vivaient très très mal. Quoi. D'ailleurs, ouais. Tu vois bien avec Noro qui maintenant il s'entraîne même pas avec la DH, il s'entraîne à part, seul, jusqu'à la fin du mois, je crois. Il s'entraîne à 10h ou je sais pas trop quelle heure.
Eu égard à son statut.
C'est ça, donc au final, tu te retrouves avec des mecs qui arrive pas à gérer le coup, qui se sent encore plus mal et qui du coup font encore moins bien peut-être en équipe première. Tu peux pas faire ça sur une saison entière.
Enfin... Alors, quelqu'un d'autre veut réagir sur cette mesure?
Outre l'aspect égo des joueurs, je pense qu'il y a aussi un côté business. C'est que quand tu payes un joueur beaucoup plus cher comme un euro ou un autre, de base, tu peux pas te permettre de l'écarter direct. Donc forcément, tu vas te dire, je le laisse dans le groupe, quitte à lui laisser éventuellement sa chance, mais l'écarter complètement, un mec que tu payes, je sais pas combien il gagne, mais je vais pas donner de somme parce que je
au moins pas, 5, au moins 5000 euros par mois, on va dire.
Voilà, donc au moins 5000 voilà. euros, voire 2-3 fois plus. Mais bon, voilà, tu peux pas te permettre de dire, je paye un mec 10-15 000 balles et je suis sûr de pas le faire jouer. Donc je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qui rentre en jeu, outre le côté.
C'est du management, sportif, quoi.
Voilà,
management c'est... tout simplement. Oui.
Alors pourquoi donc il y a des joueurs qui ont mal réagi à cette annonce, alors que pourtant je ne la trouvais pas très restrictive, vu que finalement si on enlève les blessés, il restait quand même pas mal de monde, et toutes les semaines on peut réintégrer le groupe. Et donc je crois qu'il y a des joueurs comme Perrin, je ne sais plus,
il y a Pino et Sabo qui sont vraiment épanchés dans
donc, la presse, y a des joueurs...
et Kimmich.
Alors pourquoi apparemment, ils sont allés voir le staff et pour leur dire on pense que c'est pas une bonne idée.
Bah, la limite,
pourquoi
Pino et Sikimic, ils ont un rôle un peu de capitaine, donc c'est un peu le délégué syndical qui va voir le patron après une décision. Bah, Sikimic, il a eu une phrase dans l'Alsace qui était assez vraie, c'est qu'il disait on n'est pas à notre place, on fait de la merde, donc on a pas notre mot à dire finalement. Donc ça, c'était quand même assez justifié.
Encore, t'as été poli, il l'a pas dit aussi poliment que ça.
Non, c'est pour les oreilles chastes de nos éditeurs. Mais effectivement, là-dessus, je pense que les joueurs, là-dessus, ils ont pas leur mot à dire. C'est tout à fait justifié. S'ils étaient 3-4 rangs plus haut au classement, il y aurait rien eu.
Non. Après, comme dit, oui, moi, je fais toujours le comparatif avec une entreprise normale, mais je veux dire... Le patron prend ses décisions, quoi. Donc forcément, les joueurs ont rien à dire. Ils subissent, entre guillemets, ou ils s'adaptent, mais c'est comme ça, quoi.
Bien, alors, je crois qu'on a fait le tour cette fameuse semaine. Et donc, on en arrive, du coup, au vendredi soir, après cette semaine un peu mouvementée.
Super.
On attend l'esprit bon commando, match. L'électrochoc, le couteau entre les dents. On y va, et on accueille Boulogne-sur-Mer, qui est donc une équipe...
Deux milieux de tableau,
donc qui n'est pas complètement tiré d'affaire pour le maintien. Elle a 30 points. Aujourd'hui, elle a 30 points. Elle est donc 5 points au-dessus de du premier relégable. Et donc Boulogne arrive à la méno. Et là, alors, on regarde ce fameux match. Et il faut dire que ça a été la première mi-temps a été complètement
ubuesque.
Exactement. Merci, Vombrimiki, de passer l'expression. Une première mi-temps complètement ubuesque. On a plein de choses à dire sur ce match parce que déjà sur la première mi-temps, ça commence plutôt pas mal pour le Racing. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire ça. Ça commence plutôt pas mal. Et là, il y a eu le fameux CSC d'Ali Bamba. Alors, donc moi, à ce moment-là, j'étais en tribune ouest basse, donc aux premières loges. Et Et j'ai eu un instant d'incompréhension. Je me suis dit,
mais je crois que c'est tout le stade. Et je me suis dit, de flottement, tout le monde s'est regardé.
Et là, je me suis dit, où est-ce qu'on marque en fait? Est-ce que j'ai pas compris où on marquait? Et
je pensais que non, en fait, arrêté.
On marquait. Comment
c'est qu'il a cru, Bamba? Je pense qu'il a cru que le mec.
Non.
Parce que j'ai pas compris.
Alors, déjà, on va parler un peu de ce fameux but. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi?
Il n'y a aucune explication. Il n'y a pas sans retrait, sens.
Alors, on écoute Vrombé Mickey.
Il y a un pseudo-débordement côté gauche.
C'est un beau débordement.
Ah oui, il est bien amené.
Belle passe.
La défense est complètement.
Oui, mais justement, c'est ça qui est un peu inquiétant aussi, c'est que la défense est à la rue. La balle revient plein axe. Bamba se retrouve au deuxième poteau seul. Le premier attaquant boulonnais doit être à 3-4 mètres de lui.
Il a le temps.
Il est quand même trop.
Oui, il a le temps.
Il peut contrôler, il peut dégager, il a le temps. Et là, je sais pas, je pense qu'il veut la mettre en corner et un plat du pied splendide.
Qu'a-t-il voulu faire, Slade?
Pour moi, c'est vraiment le mec qui a fait un blackout. Il sait pas où il doit marquer, il sait plus où il est, il sait pas ce qu'il doit faire. Parce que la balle est beaucoup trop forte pour que ce soit une passe en retrait et Gauquelin, de toute façon, est pas du tout sur la trajectoire. Elle est beaucoup trop loin de la ligne de but, enfin de corner, pour que ce soit une mise en corner. Enfin, le mec a vraiment pas compris ce qu'il faisait. Ouais. Il l'a placé, elle est rentrée. Bravo à lui.
C'est pas les joueurs qu'il a, je pense, en quelle heure là-dessus?
Plat du pied, c'est compliqué.
C'est
un complot messin.
Alors, moi, je pense vraiment à un mélange des deux, de vos deux analyses. Moi, je pense que c'est un. Qu'il y va super cool, et là tout d'un coup il se dit merde, putain, il y a peut-être un gars qui va me jaillir dessus, et là il veut mettre en corner, mais et là il rate complètement son geste et ça fait but. Enfin,
c'est
pas le geste pour en touche, non?
Je sais pas, il peut la c'est pas le geste pour mettre en corner,
c'est pas la trajectoire pour mettre en corner.
Si bah bref, enfin, tout c'est assez incompréhensible, en fait. Alors, de mémoire de supporter strasbourgeois,
si, il y avait Pesley qui avait fait ça. Alors, il avait fait un magnifique tacle qui était rentré plein de lucarnes, qui était seul sur Pesley, le cinquième meilleur défenseur de Ligue 1. qui avait fait un tacle de mémoire. Je sais plus contre quelle équipe de merde. C'était
la saison en descente contre Nancy.
Ouais, c'était un mètre du but. Il fait un tacle et il l'amène en pleine lucarne alors qu'il n'avait pas à le faire. Quoi. C'était vraiment le seul truc où je peux comparer, parce qu'après, il y a.
Alors les anciens qu'on a retrouvés à la mi-temps, eux avaient une action en mémoire. C'était un nouveau but couillon, casquette, mais qui n'était pas un CSC, c'était un dégagement de Sylvain Sosson sur Japhet Endoram.
Ah oui.
Donc contre Nantes.
Le foot en folie.
Et c'était je n'ai plus les images en tête, mais apparemment c'était vraiment n'importe quoi.
Non, mais c'était pas vraiment un CSC, c'est le gardien qui dégage sur l'attaquant.
Oui, c'est bien ce que j'ai dit, oui. Voilà.
Non, mais c'est pas comparable. C'est...
Oui. Voilà, donc c'est pas comparable. Donc c'est vrai que c'était assez hallucinant. Donc. 1-0 pour Boulogne, alors qu'ils n'avaient pas montré grand-chose jusqu'à présent. Là, on se dit, oh purée, scénario à la con. Mais nous n'avions encore rien vu.
Alors là, c'était que le début.
C'est ça. Alors déjà, il y a eu quand même une séquence un petit peu gênante, où là, la méno, ça a commencé un peu à avoir du brouhaha. Il y a quelques joueurs qui sont allés réconforter le pauvre Ali Bamba, notamment Jean-Philippe Sabot ou Siki Mitch encore. Le match reprend, et là, dès que Bamba touche la balle, bronca du stade. Alors, moi, je trouve que c'était quand même assez sévère. Notamment la tribune nord, c'était. Alors, si ça se trouve, c'était que 500 ou 1000 personnes sur les 8-9 000. Mais en tout cas, je me suis dit, oh purée, là, ça va être long. Il reste une heure à jouer. Et Bamba, le premier contrôle qu'il fait, la balle lui glisse. Enfin, on sentait que le gars était complètement.
Ah oui,
fou,
mais
du
après,
trou.
Il ratait tout. Il a
eu un touche. Et là, je me dis.
Pas dans le match.
Et là, je dis, c'est le pire service à rendre au Racing. C'est juste, les gens sont en train de saquer le Racing. Heureusement, 3 minutes après, Sabot. Ouais,
incroyable.
Et là, on se dit qu'on a quand même. On l'a échappé belle. Le match va pouvoir reprendre, on va pouvoir les défoncer.
Et 2 minutes après.
Alors, que se passe-t-il 2 minutes après? Quelqu'un peut prendre le relais pour raconter cet épisode. Vrombi Mickey qui va se rapprocher du micro pour nous raconter cette histoire.
Je sais plus qui fait une belle passe en profondeur pour Alexandre Mendy.
Jenny, non?
Un petit brin fait une superbe ouverture pour Mendy qui part dans le dos des défenseurs, arrive excentré côté droit, plonge sur le ballon pied en avant, réussit à la redresser mais elle sort en corner et
on se demande si elle va pas rentrer dans le but.
Voilà, il y a quand même le suspense.
Pourquoi? Parce que le goal est sorti à sa rencontre, mais arrive en retard.
Arrive une demi seconde après Mendy. Et là, justement, Gourtner s'empale sur Mendy. Là, flottement, on ne sait plus ce qui se passe. Et on voit Gourtner sortir sur Sivière et Mendy sortir sur carton rouge.
McGuirty était quand même dans un sale état. Voilà, il a perdu connaissance, il a vomi du sang, il y a la rate qui était touchée.
Ouais, c'est la rate et un rein qui ont été touchés. Voilà,
c'est assez ça, il
a pris un sacré coup.
Alors on parle, il est toujours au pire.
Donc pas de chance pour Régis Gurtner, qu'on était content de revoir, hein, ouais, qui n'a pas laissé un mauvais souvenir à la vidéo.
Qui ne se serait pas fait insulter à voilà, Kevin West.
Exactement. Et donc là, pour son retour à la méno, bah, alors, pourtant, c'est pas une faute intentionnelle. Enfin, déjà, il n'y a pas eu faute.
Il n'y a pas faute.
Donc là, derrière, ça reprend donc, sur un 6 mètres. Alors j'aimerais quand même vous lire. Donc sur le forum de Racing Show, il y a pas mal de gens qui ont crié à l'erreur d'arbitrage. Il n'y a pas faute, il y a 6 mètres derrière. C'est pas normal qu'on puisse expulser un joueur. Et donc,
Eh bien si.
L'arbitre a donc eu raison.
Non, pas tout à fait. Il y a deux choses.
Ah, c'est pas. Il y a une nuance.
Alors, voilà. En tout cas, l'arbitre a appliqué un règlement.
Alors, il y a un règlement.
Alors, on va écouter à tort notre chiantologue du soir qui va nous expliquer.
Qui a vérifié un peu.
Voilà, qui a bossé. Donc, on t'écoute à tort.
Il y a dans les textes, parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a les lois du jeu et il y a l'interprétation. Donc là-dessus, c'est pas inscrit dans les lois du jeu, mais c'est l'interprétation. Quand un
lors d'un... Alors, excuse-moi, l'interprétation, c'est donc au niveau, on donne des
consignes.
On donne des conseils aux arbitres pour interpréter les lois.
Donc la FFF.
Ça, c'est la FFF. Donc c'est français.
Voilà.
C'est une consigne française.
Parce qu'en fait, les lois du jeu sont universelles et d'après, dans chaque pays, il y a quelques spécificités. Donc sur cette histoire, ça fait quelques années en fait que ça existe. C'est quand il y a un duel, un contact lors d'un duel, mais qu'il n'y a pas forcément faute. Si un joueur est gravement blessé, donc sorti sur civière, donc ça, c'est quand même des blessures assez impressionnantes généralement, l'arbitre peut donner un carton rouge au joueur adverse. Donc on a déjà eu le cas au Racing. Donc le cas de Giroud sur Auton en 2008-2009, je ne sais plus s'il y avait faute ou pas. Mais en tout cas, il y avait le match à Nancy, donc Nancy-Strasbourg en 2005. À l'automne 2005, où Deroff, en marchant sur le ballon, casse la jambe d'une ancien Adelton. Donc Adelton a arrêté sa carrière après, enfin c'était vraiment une fracture assez sale. Deroff se prend un carton rouge. Donc c'est ce règlement qui a été appliqué. Il y a deux semaines par exemple, en DH, c'était pareil, il y avait le gardien du Racing, donc Harold Ball, qui sort dans les pieds d'un attaquant de Dinsheim. Il le percute, il perd connaissance. Le joueur de Dinsheim prend un carton rouge alors qu'il n'y a pas faute. Donc c'est là-dessus, c'est sur ça que l'arbitre s'est appuyé.
Et c'est bien pour ça qu'il ne l'a pas sorti tout de suite.
Voilà, l'arbitre dans ces cas-là doit prendre des nouvelles du blessé, savoir si c'est grave, constater la blessure, si ça nécessite vraiment de rentrer dans ce cas précis.
Donc il allait voir Régis Gurtner, il lui dit voilà. « Monsieur Gurtner, vous voulez des soins ?»« Voulez-vous un soin ?» Gurtner a répondu en crachant du sang.
Non, c'est bon, ça va.
Un gommage du voilà. Visage.
Donc voilà, donc il y a bien donc un texte sur lequel s'est appuyé voilà. Monsieur je ne sais pas quoi.
Monsieur Jeannin.
Voilà.
Décidément.
Donc le Racing se retrouve du coup à 10 contre 11 alors qu'il reste une bonne heure à jouer. Voilà. Et là après il n'y a plus de match en fait. Enfin alors c'est là que les analyses vont diverger. Donc je vais un peu passer la parole aux Stubistes par procuration. C'est-à-dire je vais lire quelques extraits du forum. Là, il y a vraiment deux écoles qui se sont affrontées. Les gens qui disaient à 10 contre 11, on ne pouvait rien faire, donc il ne fallait pas se jeter à l'abordage. Le match nul est un...
C'est un bon point.
Voilà, c'est un bon point, on ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Et puis, il y a ceux qui disaient non, il fallait, dans notre situation, il fallait en mettre plus pour aller chercher la victoire. Alors, on va commencer avec le camp donc, de ceux qui ne sont pas très contents, notamment Frollo, qui dit... Quel spectacle affligeant, mon Dieu, mais que le niveau était faible des deux côtés. 3 points d'exclamation. Quel match de merde, 2 points d'exclamation. Comment peut-on produire un jeu pareil? François Keller jouait le nul ce soir. Et rien d'autre. En laissant 3 attaquants sur le banc, il ne pouvait pas en être autrement. Donc là, ce qu'il dit, c'est que François Keller jouait quelque part le nul avant même l'expulsion, en ayant laissé donc Ribas.
Non, il y avait 2 attaquants.
On reviendra là-dessus. Donc ça, c'est en tout cas, c'est l'avis de Frollo. Il n'a même pas essayé de gagner ce match alors qu'en face, il n'y avait rien. On va se faire exploser à l'Uznac. Voilà.
Optimiste.
Donc, Rika Lewis 67 nous dit que c'était un match dégueulasse. Donc, match dégueulasse qui montre qu'on est bien à notre place. On n'est pas mort, mais ça y ressemble officieusement. Et je ne parlerai pas du coaching de François Keller, qui m'a encore laissé sur le cul ce soir. Non mais sérieux, faire rentrer Perrin à la 92e et vouloir faire rentrer Ribas à la 94e, alors qu'on n'a rien fait en deuxième mi-temps. Bon, la phrase n'est pas terminée, mais voilà. Le changement aurait dû être fait dès la 65e minute au moins. Dites-vous bien que le pire reste à venir avec deux déplacements chez les deux premiers en trois matchs. Voilà, sinon on a aussi Domus, ou Dome, je ne sais pas comment on prononce, Domus on va dire, qui dit tout simplement une honte, oui une honte. Pourquoi se cacher dans les excuses encore et encore? Il n'y avait, encore une fois, rien d'une équipe sur le terrain. Désolé, mais même à 10, on peut se comporter différemment. On peut se comporter différemment, ne serait-ce que pour les spectateurs qui sont encore venus nombreux. Ah, là on retrouve... Voilà.
Les pressions.
Voilà donc un peu ce que... Des morceaux choisis de... De quelques... Alors oui, je rajoute une petite louche de Frollo quand même pour terminer. Qui dit qu'il fallait faire rentrer des attaquants pour essayer de gagner ce match, car en face, il n'y avait rien de rien. Donc là, il est en majuscule et en gras. Non mais tu as vu le niveau de Boulogne, c'est probablement l'équipe la plus faible que j'ai vue cette saison à la Méno.
On dit ça à chaque match. Alors,
là, je crois qu'il y a des gens sur cette table qui sont quand même relativement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors, qui veut... Je propose de passer la parole à Hathor, par exemple, que j'ai vu très très en colère à la fin du match.
Pour ça, je me suis retenu de ne pas poster sur le forum, parce que j'aurais pu être pire.
Mais on l'a vu poster sur Twitter. Voilà, un message qu'on ne reproduira pas ici. Voilà. Mais il y avait du langage fleuri dedans. Alors, Hathor, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce... du coup, de cette deuxième partie de match?
Voilà, après l'expulsion de Mendy, puisqu'avant, c'était plutôt correct. En fait... Dans une situation, donc on sortait de trois défaites consécutives, on parlait d'esprit commando, on disait que les joueurs devaient être responsabilisés, que Keller était sur la sellette, mais que derrière on devait tous être unis pour arracher le maintien. Donc effectivement, on pouvait s'attendre à une équipe un minimum conquérante. Et effectivement, en face, Boulogne n'avait strictement rien montré. Moi, au début du match, je craignais beaucoup les deux milieux excentrés, donc Mauricio et Chemlal, qui au final n'ont rien fait du tout. Leur avant-centre Tewé, qui est plutôt correct pour le national, lui pareil, était assez maladroit. Donc c'était assez inoffensif. On pouvait éventuellement se permettre d'attaquer un minimum. Or, ce que j'ai vu, c'était en deuxième mi-temps notamment, pas une seule fois on est rentré dans la surface adverse. On n'a jamais lancé d'offensive concrète. Même des situations de frappe, mis à part deux corners que Oliveira tente de reprendre des 25 mètres, mais de manière assez ridicule. Et donc, ce manque d'initiative offensive qui était quand même très, 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 très gênante, j'ai trouvé. Et il y avait aussi des phases de Boulogne qui gardaient le ballon au milieu de terrain. On avait les trois joueurs offensifs qui nous restaient, donc il y avait Liénard, Sabot et...
Genji.
Voilà, la preuve que son match était très bon. Et aucun ne faisait le pressing sur le porteur. Donc il y avait des séquences où Boulogne pouvait faire tourner le ballon 40 secondes pendant une minute. Donc ça paraît rien, mais c'est hyper long. Personne qui vient presser le porteur, même pas forcément un pressing ou corps à corps, mais au moins se montrer un peu pour forcer la passe. Boulogne ne faisait rien, se contentait du nul. Et nous, pareil, on ne jouait pas alors que notre situation l'exigeait. Donc là-dessus, j'étais vraiment, vraiment en colère, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup mieux à faire et qu'on se complique encore plus la situation, puisqu'on ne prend qu'un seul point, finalement.
Alors, quelqu'un veut apporter son avis? On va écouter Slade.
Moi, je suis totalement d'accord avec Hathor. Enfin, j'ai même pas fait l'article du match, parce que j'avais peur d'être censuré par la rédaction. mais enfin, j'étais en populaire ouest pour des soucis pratiques. Et j'ai pas vu un joueur du Racing pendant 40 minutes d'affilée, j'en ai pas vu un seul à portée de vue, à part Sabot qui 2-3 fois était dans mon champ de vision, sinon j'ai rien vu.
Donc c'est le côté où Strasbourg attaquait.
C'est ça. Ouais. Et les défenseurs revenaient avec Sauvage la remettait à ses défenseurs centraux tranquillement, tous ces putains de 6 mètres, ils les faisaient tous de la même façon. Ils posaient la balle, ils les passaient à défenseur central. Pas une seule fois j'ai vu un attaquant, Liénard, Gengini ou Sabot venir presser ou venir. Puis même on parlait de défense, enfin de mecs commando avec 18 mecs à l'entraînement qui en voulaient, qui étaient derrière leur coach, qui avait un peu la rage contre cette décision parce qu'il y avait leur pote qui était en DH. Et putain, j'en ai vu aucun quoi. Enfin, j'ai pas vu un seul mec qui en avait vraiment envie, qui a mis des coups à part Sabot à la fin. Enfin, il y avait rien, strictement rien.
Donc toi, tu es aussi remonté que Kator. Qu'en pense Ator, Nitro par exemple?
Moi, je comprends ce que vous pensez, mais je pense que si on regarde le dernier mois du Racing, je pense que le match il est totalement compréhensible. C'est-à-dire qu'à Vannes, on a des occasions, on se mange un but de taré à la dernière minute qui nous fait perdre. Psychologiquement, ça la fout un peu mal, mais on se dit il y a des espoirs. Il y a des espoirs finalement contre le Paris FC, on fait au final un mauvais match, même s'il y a eu quelques bonnes choses. Et au final, on perd de 0 à domicile en ayant été prévenu de la manière dont on pouvait perdre ce match. À Luçon, on fait encore un bon match. Je pense que l'équipe, psychologiquement, je pense qu'elle est à peu près au fond du trou. Contre Boulogne, il y a l'égalisation qui intervient super tôt et là je pense que l'équipe a un électrochoc et se dit bon maintenant c'est parti, on va prendre le dessus. Et je pense qu'une nouvelle fois, comme depuis un mois, le rouge vient casser toute la dynamique et je pense que mentalement les joueurs n'y étaient plus. Et après physiquement ils ont lâché et je pense que par contre c'est clair et net que François Keller a rien de jouer d'autre que le nul sur ce match. D'ailleurs l'absence de changement, je l'ai trouvé assez incompréhensible parce qu'à 10 contre 11 avec une dépense d'énergie qui est forcément augmentée quand tu joues en défense et que tu cours après le ballon. Pourquoi, même si on n'avait qu'un seul contre à jouer, on a vu qu'on a eu par exemple un seul avec Pino qui a failli passer et centrer, c'est tout ce qu'on a eu à se mettre sous la dent. Voilà, c'est ça, c'est tout ce qu'on a eu à se mettre sous la dent en deuxième mi-temps. Avec des joueurs plus frais, on s'est dit bah, peut-être que ce ballon-là il serait passé. Maintenant, je pense que jouer le nul n'était pas idiot parce que, comme on vient de dire contre le Paris FC, on s'est dit valait peut-être mieux qu'un point qu'une défaite. Au final, là, on a un point. Est-ce qu'on n'aura pas à nouveau perdu? Là, une défaite, ça aurait été catastrophique contre Boulogne. Ça aurait été 4 défaites de suite. Là, c'était.
Alors,
bah sur les changements, mis à part Bellamer éventuellement qui aurait éventuellement pu rentrer, Ribas et Perrin, je ne les voyais pas du tout jouer dans ces conditions-là.
Parce que tu peux sortir un Gengini pour mettre Bellamer. Tu déséquilibres pas ton équipe. Hein, voilà. Ça.
Là, on aurait pu effectivement. Par contre, un Perrin ou un Ribas, dans ces conditions-là, ils auraient servi à rien. On jouait, c'était incroyable, on jouait sur 20 mètres. Avec notre ligne de défense collée à la surface de réparation. Donc on avait un bloc extrêmement bas. On avait juste Liénard qui voguait un peu dans le rond central. Mais pour lancer les attaques, c'était pas possible. Tu mets un Ribas dans ces conditions-là. C'est pas le mec que tu vas alerter dans la profondeur ou qui va te remonter le terrain, qui va te remonter 30 mètres. C'est un joueur qui a besoin d'évoluer dans une équipe qui a un bloc assez haut. Et qu'il y a des joueurs en soutien.
Mais alors, ce n'est pas des mecs qui, si par bonheur, tu arrives à avoir un coup de pied arrêté à 30-40 mètres, voire un corner, ouh, soyons fous, c'est pas le genre de mecs qui peuvent mettre un bon coup de tête derrière les fagots. Et
bah, faut déjà arriver à avoir le corner.
Oui,
voilà, c'est comme et les tirer.
Alors, dans ces conditions-là, le joueur idéal, ça aurait été le joueur du PFC, Toko Ekambi. Voilà, c'est le mec que tu peux lancer.
Exactement ce que j'allais dire.
Que tu peux lancer.
Et alors, on va écouter du coup l'avis de Vrombi Mickey sur ce match.
Avis, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit parce que je partage un petit peu toutes les idées qui ont été données.
Mais la seule idée que je m'en suis fait, c'est que je me suis fait chier pendant ce match. Ouais, quoi. C'est clair. Je veux dire, comme dit, les 20 premières minutes, enfin la première demi-heure en visant large, avec tout le scénario aussi dingue qu'on puisse imaginer qui est arrivé. Mais après ça, le match était chiant. Je veux dire, il n'y avait rien. Boulogne, ils jouent à 11 contre 10. On avait l'impression qu'ils étaient à 9 contre 14. Ils sont recrobuquevillés derrière, ils avançaient pas. Il n'y avait aucune envie, il n'y avait pas de pressing, il n'y avait rien. En face, le Racing, alors ok, on était à 10. On pouvait imaginer qu'on se contente du nul, mais même à 10, on était encore au-dessus parce que, comme dit, Boulogne ne montrait rien. Donc
tu penses, toi tu penses
globalement, que... je pense qu'on avait, il y avait un peut-être coup un coup à jouer.
Il fallait se découvrir un peu plus.
Mais pas forcément mais... se découvrir plus.
Là, non, mais plus. Si tu attaques plus, mais c'est que forcément tu défends un peu
moins. Pas forcément se découvrir plus, mais mettre des joueurs qui ont plus une vocation offensive. Par exemple, on aurait pu faire un changement avec, pas forcément un Ribas, mais comme dit, un Bellamer, qui aurait peut-être amené cette folie devant. Parce que là, on jouait derrière, il n'y avait rien devant, et du coup, on a attendu. Et nous, en tribune, enfin, moi je me suis fait
chier. Même avec les joueurs qu'on avait sur le terrain, tu peux jouer autrement sans te découvrir. Tu montes un peu la ligne de défense. Tes trois joueurs offensifs qui restaient, bah, ils se montent un peu plus entreprenants. T'as un Oliveira qui apporte un peu de surnombre. Quand c'est pas Oliveira, c'est Mamadou Ba qui monte un peu. C'est possible. Là, c'était vraiment volontaire de rester comme ça défensivement, sur un bloc assez bas, et d'attendre la fin du match, tout simplement.
C'est marrant parce que moi, je ressors du match. Pour moi, la deuxième mi-temps, j'ai l'impression d'avoir vu un Racing qui a plutôt dominé, qui est la balle. Plus que Boulogne, et qui essayait d'attaquer, mais qui, étant à 10, bah, a forcément eu un peu de mal. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y avait de la volonté de se dire, on n'aura pas beaucoup de coups à jouer, mais il faut vraiment y aller à fond dès qu'il y a une étincelle.
Voilà.
Bah, moi, j'ai trouvé que ça montait un peu, ça allait sur les côtés, c'était pas dégueulasse. Et le coup de sifflet final, je me dis, c'est pas de chance quand même ce carton rouge, du coup on a été un peu embêté. Et je retrouve d'autres collègues Stubis qui sont remontés comme des pendules, qui ont vu un match avec pas d'envie. Moi j'ai vu des gars qui étaient quand même un peu qui avaient un peu la rage et tout. Et donc comme quoi on voit pas forcément les mêmes. Peut-être que j'ai mal vu, hein, mais peut-être on voit pas tout à fait les mêmes matchs.
Pour moi, c'est vraiment un pétard mouillé, quoi. On a essayé d'allumer la mèche 20 fois, mais le pétard a jamais explosé. Il y avait rien devant qui permettait à ce pétard de péter. Et du coup, ça a donné une mi-temps ennuyante. On s'est fait chier. Parce que justement, il y avait éventuellement moyen d'allumer la mèche, mais elle a jamais pris.
Alors, je vais lire un autre extrait du forum. Juste avant.
Par rapport à ce que tu dis, c'est aussi ce qui m'a un peu choqué, c'est les réactions d'après-match de François Keller ou de, je crois que c'était Sabot, qui disait on a été héroïque.
J'ai oublié, donc merci d'en parler. Donc c'est vrai que le mot que François Keller
c'est
a
héroïque,
dit, voilà. Héroïque, et je vais citer une phrase de François Keller, on s'est racheté au niveau de l'état d'esprit face à Boulogne, mais pas au niveau comptable. Voilà. Toi, tu es pas d'accord, attends.
Bah, j'ai vraiment pas compris. Enfin, moi, après le match, j'étais effectivement vraiment en colère. Et je lis ça là en sortant, avant de démarrer la voiture, je lis ça sur Twitter. Putain, mais là-dessus, c'était encore pire. J'ai vraiment pas vu le même match que beaucoup, qui estimaient que c'était un bon point pris, qu'il y avait l'état d'esprit, que les joueurs ont fait les efforts, et blablabla. Et putain, il y avait rien. On n'avait pas l'impression que c'était une équipe qui jouait sa survie.
Alors, il y a deux situations un peu ubuesques qui ont été relevées par JP Darky sur Twitter. Donc, non, c'est pas l'avion. C'est tout simplement. Alors, je sais plus. C'est en fin de deuxième mi-temps. Il y a eu un moment où il y avait une balle pour le Racing et donc il y a, je sais plus si c'est touche ou coup franc pour le Racing.
C'est une touche.
C'est une touche. Et là il y a plus personne pour jouer la touche parce que alors qu'il reste. Non mais on est en toute fin de match.
Pardon, c'est dans le
Il reste 2-3 minutes à jouer. Oui. Et là il y a une des dernières cartouches. Alors c'est pas un corner mais c'est une touche quand même dans le camp de Boulogne. Oui. Et là l'arbitre voit qu'il y a personne pour jouer la touche parce que tous les mecs sont allés boire.
À la 93e minute. Sont allés boire.
Ouais. Voilà donc ça c'est quand même c'est vrai que c'était un peu surprenant. Alors, autre chose très surprenante, c'est quand même l'entrée de Perrin à la 92e minute.
Oui.
Il est rentré 50 secondes.
Mais pour gagner du temps.
La fausse, voilà, donc comme une équipe qui. Et puis mieux, c'est la fausse rentrée de Ribas. Donc Ribas qui a enlevé son survêtement, qui s'est rapproché du banc. Et au moment où il devait rentrer, le match était fini.
Ouais.
Voilà. Et donc ça, c'était. C'est vrai que c'est un peu étrange.
On gagnait du temps, oui, dans les dernières secondes, comme si on menait 2-1 et qu'on.
Alors, ça me fait penser à une autre situation en fin de première mi-temps. Alors là, c'est un peu différent parce que le Racing commençait à jouer à 10 contre 11. Donc, peut-être que là, à ce moment-là, ils n'étaient pas encore rendus compte que même à 10 contre 11, ils pouvaient en fait tenir tête à Boulogne. Il y a un 6 mètres pour Strasbourg parce que je ne sais plus quel joueur de Boulogne a fait une frappe à côté. En tout cas, la balle est sortie. Un petit ramasseur de balles zélé renvoie aussitôt une nouvelle balle, un nouveau ballon à Gauquelin pour qu'il joue le 6 mètres. Et là, Pino lui fait signe. Oh là, calme-toi, pas trop vite. On joue la montre. Voilà. Donc ça, alors, bon là, je peux comprendre peut-être un petit peu que quand on est à la 35e minute de jeu, peut-être qu'ils ont envie de se laisser un peu d'air.
Le temps de se réorganiser tactiquement, éventuellement. Ça peut se comprendre. Mais à la fin du match, c'est. C'est que la sortie de Mamadou Ba quand Perrin rentre, mais le mec il regarde à côté, il sait pas que c'est lui qui sort, après il sort en marchant, mais putain, il y a encore moyen d'arracher les 3 points, tu sors en courant, après les mecs ils vont pas boire à 2 minutes de la fin du match, ils jouent la touche tout de suite, enfin, bon, c'est incompréhensible.
Alors je vais dire que du coup, comme je l'avais annoncé, une réaction de Tura, je sais pas comment on prononce, Alors, lui, il dit, l'arbitre a tué le match, il a voulu faire une sorte de compensation pour la blessure de Gürtner, et au final, ça a forcé le Racing à jouer plus défensif, tandis que Boulogne ne se montrait pas dangereux. Donc ça, on a déjà répondu sur ce premier point de l'arbitre. Et après, il enchaîne, il dit, alors voilà, les supporters de Canapé viennent râler en disant que François Keller aurait dû mettre un attaquant de plus, jouer plus offensif. Vous avez entendu, là, les supporters de Canapé? Et il dit, il ajoute enfin, s'il l'avait fait et qu'on avait perdu, tout le monde aurait hurlé au loup parce qu'on était à 10 et qu'il fallait conserver ce point. Maintenant, on a, entre guillemets, gagné ce point, et les mêmes personnes râlent parce qu'il n'en a pas gagné 3. Alors, il y a aussi, sinon, Playmobil 67, qui, lui, à qui on demandait quels étaient les points positifs de la soirée. Et lui, il répond, enfin, quelqu'un disait qu'il n'y avait pas de points positifs, et lui, il dit si. Premier point positif, une égalisation après un CSC, alors que l'équipe aurait très bien pu ne pas relever la tête.
Ça, c'est vrai que
ça je suis d'accord avec ça. Moi, j'étais sur le cul quand même que 3 minutes après le gros bordel de Bamba, que ça, on est d'accord avec lui.
Surtout Sabot.
Et enfin, il dit Sikimic, autre point positif, Sikimic qui a fait son taf et redonne de la confiance derrière.
Sikimic, je pense qu'on ne peut pas vraiment s'appuyer sur ce match. C'est, effectivement, il a fait vraiment un bon match. Il a été tout le temps présent. Mais vu ce qu'il y avait en face, enfin, c'était un entraînement. Pour lui, il avait juste à sauter, à contrer de la tête. Je pense que c'était
après,
pas.
Techniquement, c'était quand même assez.
Ah là, s'il a
c'est limité, il dégageait tout en touche.
Voilà.
Mais bon, c'est ce qu'il faut. C'est...
Pour moi, celui qui a vraiment
n'est-ce
fait un bon match.
N'est-ce pas, Ali Bamba? Bon, alors, autre. Oui, tu
voulais. Pour moi, juste celui qui a fait un bon match quand même en deuxième mi-temps, je trouve que Mamadouba, il a récupéré quand même pas mal de ballons et que lui, au milieu, c'était le seul qui allait faire un minimum de pressing pour récupérer le ballon. Et on le voyait souvent se projeter vers l'avant pour essayer de combler le vide laissé dans la surface par Mendy. Je trouvais que c'était le seul qui, avec Sabot éventuellement, qui avait cette petite envie d'aller vers l'avant et de faire quelque chose.
Alors, je veux lire aussi un commentaire d'Axis, le Orinois. Le Orinois. Voilà. Alors, on peut toujours critiquer en disant qu'on pouvait sortir Liénard plus tôt pour mettre Perrin, mais on a eu du mal à passer le mur boulonné, donc je ne crois pas qu'on pouvait viser mieux.
Le mur.
Ribas sur le banc, ça choque, mais encore une fois, au vu du jeu déployé de part et d'autre, il n'aurait pas touché une balle et a quand même moins tendance à faire de l'effort de revenir défendre. Or là, c'était vital. Donc là, il est plutôt d'accord avec toi. Alors. Et enfin, il dit, des regrets à avoir, car à 11 contre 11, le match ne se serait peut-être pas transformé en une guerre de tranchées, mais au moins, on marque un point et on reste au contact des adversaires.
Enfin, on reste au contact,
mais...
À bien gagner. Hein.
Ouais.
Alors, enfin...
On n'a que 2 points de retard sur le premier.
Dernière réaction, c'est Mediasoc. Juste un petit extrait, lui, il dit, mais enfin... Enfin, non, il dit pas mais enfin. Il dit, on sortait de 3 matchs où on attaquait la fleur au fusil pour 3 défaites. Donc il dit,
bah, Luçon, sous-entendu,
là on a été plus prudent et on a un point.
Ah mais en face.
Alors Slade.
En face, il y avait à chaque fois, on a perdu, il y avait à chaque fois en face des vrais attaquants. Mm. Enfin là on a, enfin perso j'ai rien vu de Boulogne qui me laissait penser que si on attaquait, on allait se faire totalement défoncer par derrière. Enfin quand tu vois Paris FC, avec, je sais pas, désolé, avec Toko qui à chaque fois a 2 ballons, les met les 2 très bien. J'avais pas, enfin même à Vannes où les mecs ils font 2 frappes sublimes. Enfin, j'ai pas vu ça à Boulogne ou laisser penser qu'il y aurait ça. Enfin, en plus, il y avait le gardien remplaçant qui est censé en plus être moins chiant en première mi-temps, qui était un peu perturbé.
Il avait l'air fébrile quand même.
sur son premier ballon, notamment, Sabot le presse un peu en première mi-temps et il foire totalement sa relance qui finit en corner.
Ah oui, t'es absolument pas rassuré. En deuxième mi-temps, il faisait des passes à 6 mètres qui étaient tremblantes et qui partaient sur le côté à chaque fois. Enfin,
et puis il y avait une grosse pression du public aussi.
Très grosse.
Ouais. Dans ces conditions-là, justement, t'essayes de frapper, t'essayes de solliciter un minimum.
D'ailleurs, le seul à avoir essayé de frapper de loin, c'est Gianni, hein. Enfin, qui était tellement foiré ses 2 frappes de 30 mètres.
Ah, c'est Oliveira.
Non, Gianni a fait une frappe de 30 mètres totalement à côté.
Il y a Oliveira qu'on a fait
sur les 2 corners.
En fin de première mi-temps, il y a une situation assez rigolote où il y a une contre-attaque de, je crois, c'est Liénard sur le côté droit, une percée. Et il n'y a personne de son équipe qui est à moins de 30 mètres de lui derrière lui. Et du coup, il se dit, enfin, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il a quand même 3, il y a 3 mecs à aller dribbler pour le but, donc c'est pas possible. Il part un peu sur la droite, du coup il temporise, il attend, et 50 ans plus tard, il y avait un peu de monde qui est arrivé. Mais du coup, dans ces conditions, c'est sûr que c'était très très compliqué d'aller mettre un but.
On avait l'impression d'être chez le leader, on avait vraiment l'impression d'être chez le leader, parce qu'on jouait derrière, on attaquait timidement et on essayait de jouer le match nul, alors qu'on aurait... Pour moi, on aurait dû gagner ce match. Enfin, on aurait pu au moins essayer, on aurait dû essayer.
On aurait dû essayer, voilà.
Pour moi, c'est vraiment une erreur de ne pas avoir essayé, quitte
à... Je vais enfoncer un peu le clou, mais... Par rapport à ce qu'on disait avant du Paris FC, où on a refait les mêmes conneries qu'à l'aller, on savait très bien comment aller jouer Boulogne. Ils ont fait le même match qu'à l'aller. À l'aller, c'était pareil, ils n'ont rien montré, ils marquent sur un coup franc. il n'y avait pas grand-chose. Le match était aussi ennuyant. Enfin, il n'y avait vraiment rien. Et on se retrouve à faire exactement le même match. Sauf que là, il y a eu l'effet de jeu en plus avec le carton rouge, etc. Mais on était prévenus. On savait que ce ne serait pas incisif devant, que ça allait jouer relativement regroupé. C'était exactement le même match, oui, en fait. C'est... La seule différence, c'est que là, on fait match nul, alors qu'il y a carton rouge et tout, alors qu'à l'aller, on perd 1-0 sur coup franc.
Ça reste une équipe moyen moins de...
Voilà, ouais, c'est là, ça, ouais. C'est exactement non, mais attends, ça, c'est te... du moyen moins. Après, mais on savait comment ça allait oui. être.
Mais là, on te dit, les mecs, ils vont camper à 11 devant leur but. Tu le sais, donc tu te dis, oui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'attaque. C'est ça?
Ou alors, on en revient au même débat qu'avant avec le Paris FC, on les attend pour que
justement... D'accord, mais là, c'est même pas le problème. Ben, c'est ce qu'ils ont fait.
On les a attendus, mais il n'y avait rien devant.
Quand tu te retrouves à 10,
oui, mais justement,
et ben, qu'est-ce que tu fais? Là, ils ont attendu, et là, vous n'êtes pas content. Et tu me dis, non, tu dis qu'il fallait attendre.
Il
fallait faire quoi? Le résultat, quoi qu'il fasse, ça ne vous aurait pas plu.
Non, le résultat, je suis plus ou moins content, parce qu'on va dire qu'à 10 contre 11, on n'a pas perdu, c'est plus ou moins une victoire. Mais après, c'est vrai qu'en jouant justement en les attendant, tu fais rentrer par exemple un Bellamer qui a quand même un petit peu plus de vitesse qu'un Perrin, là, tu peux espérer quelque chose si tu balances le ballon devant, parce que quand on ne faut pas se le cacher non plus. Première mi-temps, on a essayé de poser le ballon, mais deuxième mi-temps, on a fait exactement comme d'habitude, c'est on prend un défenseur central, on balance devant et on espère qu'il y en a un qui court. Mais personne ne court.
Mais le problème, c'est qu'à 11 contre 11, on était bon là, sur ce match.
Ouais, c'est ça.
Donc toutes vos critiques, à 11 contre 11, je pense que vraiment, ça commençait bien. On se dit, voilà, là, ça va mieux.
Même les autres matchs, première mi-temps, on pose le ballon, mais en deuxième mi-temps, c'est toujours du balancer devant. Mais on joue les 5 dernières minutes après parce que, ah merde, faut gagner. Mais les deuxièmes mi-temps, c'est toujours ça. On prend le ballon, on ne sait pas quoi foutre avec, alors on balance devant.
Voilà ça.
Quand c'est pas un Goliard ou un Grimm, c'est un petit Kimmich, mais c'est toujours le même.
Alors
le même
attends, mais les réactions là, elles se basent sur le postulat que en fait, quand une équipe attaque, elle se prend forcément un but en contre. Mm-hmm. Mais c'est pas vrai. Tu peux très bien avoir resté à 5 derrière, donc la ligne de 4 et le 6 décroché qui reste un peu en sentinelle, mais les autres ils peuvent tenter des attaques 2 ou à 3, des combinaisons un peu plus haut. Rien que se projeter, remonter le bloc de 10-20 mètres. Ça permet déjà de créer des situations. Là, on n'a pas fait, on est resté un bloc hyper bas. On récupérait à genre 20 mètres de notre surface et on balançait effectivement. Ça on ne peut pas marquer comme ça.
Non.
Qui plus est avec un joueur en moins et le seul, en plus, le joueur en moins, c'est le seul attaquant qu'on ait qui éventuellement peut prendre la profondeur. Donc derrière, au niveau de l'effectif, on n'avait plus personne sur le banc dans ce profil-là. Et sur le terrain, c'était pareil. Lienard était carbo au bout de 60 minutes. Donc il ne pouvait, pouvait plus assurer dans ce registre.
Bien, bah, je crois qu'on a fait le tour pour le match de Boulogne. Et donc il nous reste maintenant à parler de l'avenir. Donc je crois qu'il reste 10 matchs à jouer cette saison. Donc il y a quand même un calendrier qui n'est pas facile. Comme je l'ai lu dans la réaction de je ne sais plus qui, il y a des matchs pas évidents qui se profilent.
À l'extérieur, surtout.
Donc maintenant, on va conseiller la lecture d'un article de JP Darkie. Qui a fait un petit exercice de statistique en reprenant un modèle qui essaie de prévoir un peu ce qui peut se passer en fin de saison pour le Racing. Donc ça est sur rue 89 Strasbourg. Et donc ses conclusions sont quand même assez pessimistes. Donc je vous invite à aller, si vous voulez plus de détails, allez le consulter. C'est assez intéressant. Il y a pas mal de graphiques à moustache.
Des boîtes à moustache,
tout à fait. Donc voilà. Donc maintenant, si on parle donc de la fin de saison, alors le calendrier. Eh bien, c'est vendredi prochain, ça sera à la télévision. Le déplacement...
Ouais,
c'est le déplacement chez le leader, l'Uznac. C'est vendredi. Après, on enchaînera, on va recevoir Amiens. Donc là, c'est le concurrent.
Le match de la peur.
Le match de la peur, parce que c'est un peu le même profil de club que Strasbourg. Mmh. C'est le plus gros budget national.
C'est ça, oui. Voilà. C'est statut pro encore.
Donc, et c'est vraiment un club qui est relégable. Mmh. Et... Bon voilà, donc là c'est les deux prochains matchs, et puis après il y a du Carquefou, il y a Colmar, Orléans, Bourg-Perona, le Pour et Survivre, Dunkerque, Colomiers, et enfin le Red Star. Alors il y aura, dans ces matchs-là, il y en a 2-3 où on va jouer contre des clubs qui n'ont rien à jouer. Mal, ouais. Et par contre, tous les autres, ça sera soit du club qui veut monter, qui joue la montée, soit des concurrents pour le maintien. Alors, donc qu'est-ce qu'on peut attendre de cette fin de saison? Déjà, on va parler de l'Uznac. Comment vous voyez ce déplacement vendredi? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors, ça fait un peu mal au cul de se dire qu'en purée, on va chez l'ogre de l'Uznac. Mais bon, c'est la vérité, c'est comme ça. Alors, l'Uznac, que faut-il faire? Et surtout, à votre avis, que va-t-il se passer Slade.
Bah, pour moi, ça va être une défaite nette et sans appel. On va s'en prendre une qui va être violente. Keller va pleurer. Et Sabo fera un bon match. Ça, je prédis, parce que Sabo... Déjà, Brown, on l'a pas dit, mais Sabo a fait un très bon match. Enfin, un très bon match.
Ah,
fait
un bon match.
A été, voilà. Pour moi, le meilleur sur le terrain. Il avait vraiment un mental, un esprit que j'avais pas vu chez lui depuis facilement 6-7 mois, au moins.
Depuis ses années à Chantilly, en 13 ans.
Et je l'ai assez taclé pour pas relever ça. Et pour moi, il fera un bon match, mais ça va pas suffire. Et Luznak est en ce moment très fort, cartonne beaucoup de clubs. On va y aller sans avoir fait qu'une victoire depuis. On a calculé ce mois, après mes 14, on était à, je sais pas, 6-7 mois.
Plus de 200 jours.
Oui, 230.
À l'extérieur.
À l'extérieur. Mais bon, là, à l'extérieur, on va prendre cher.
Donc, toi, tu vois, on se prend 2-3-0. Quoi.
Ouais, mais après, je suis un très mauvais pronostiqueur. Hein. Je suis 100e au Stouk, donc j'espère me tromper. Mais pour moi, dans cette dynamique-là, ça va faire très mal.
Bien, alors on va écouter Nitro qui va nous dire un peu comment d'après lui ça va se passer vendredi prochain. Vendredi.
Moi, je pense que ce qu'il faudrait faire face à Luznak, je pense que si on la joue comme face à Van, etc., je pense qu'on risque de se faire bouffer parce que Luznak fait quand même partie du top de la division. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est y aller en mode commando. Je sais pas si Amofa sera de retour déjà,
non,
mais
non.
Bah, au pire on maigrit, mais quitte à mettre un milieu ultra... ultra densifié. Non, mais comme la saison dernière, au final, la saison dernière, c'est quand on met Koulibaly à Moufa qu'on commence au milieu à vraiment avoir un impact physique et qu'on commence à écraser les autres. Et là, au final, bah, on met Amofa et Ba avec limite Oliveira en sentinelle, comme les cabayes, par exemple, en équipe de France, pour amener un peu de technique à la relance. Et on met Ba et Amofa au milieu, ou Grim, parce que voilà, c'est aussi un petit peu un mec physique qui aime bien aller au contact. c'est ce que je veux dire. Et non, pour moi, il faut faire ça et essayer de jouer physique et jouer en contre, absolument jouer en contre. Parce qu'à mon avis, on a vu que ça marche pas. Au début de saison aussi, on essayait de faire du jeu, je sais pas si vous vous rappelez. On gagne les premiers matchs de 0 contre Van et contre UZ, je crois. Et là, on se dit, ah, c'est pas trop mal, ils essayent un peu de faire quelque chose. Et tout de suite après, là, on commence à se rendre compte que ça marche pas. Donc au final, le beau jeu, même François Kella, je crois qu'il a dit qu'il avait reçu des messages de joueurs de Colmar, je crois, et d'autres personnes qui lui ont dit, arrête de vouloir jouer, tu en mets 10 derrière, un devant, et t'espères quelque chose. C'est le national. Alors, c'était comme ça.
Ton pronostic pour vendredi?
Je me dis qu'avec le Racing, c'est l'argument fatal, on peut croire à un miracle quand tout est perdu, mais si on est logique et qu'on s'en tient au fait, normalement c'est une défaite sans appel.
Donc tu es plutôt d'accord avec Slade. Bon, oui, Mickey, qu'en penses-tu, toi?
Ben, je vais un peu faire comme d'hab, je vais faire optimiste. Optimiste par rapport aux autres. Hein.
Ouais.
Mais si tout le Racing, joueurs, entraîneurs, tout le monde se met enfin à ouvrir les yeux, on va y aller à 11 défenseurs, on va tout faire pour ne pas prendre de but, et on va finir à 0-0. Et là, on pourra s'estimer heureux. Après, si on continue dans la même logique à vouloir absolument mettre des buts, on le sait qu'en national, ce n'est pas ça qui fait gagner. Le national, c'est un championnat de défense, ce n'est pas un championnat d'attaque. C'est vraiment, comme on l'a dit, c'est du 10 derrière, un devant. Et j'espère qu'on ira comme ça, avec 10 derrière, un devant. Et qu'on attrapera au moins ce 0-0 qui pourrait être un bon résultat là-bas.
D'accord, donc on peut rêver d'un nul, quoi.
Voilà.
Alors, à tort.
Alors, j'ai envie de dire qu'on se prend 3-4-0 là-bas. Maintenant, je connais un peu Luznak, j'ai regardé beaucoup de résumés, je suis quand même assez le national. C'est une équipe qui joue en 3-5-2. Donc un peu comme le CA Bastia l'an dernier, donc qui attend assez bas les adversaires et qui balance devant sur un super attaquant, donc qui est Ante Donat-Endo, donc le meilleur buteur actuel, qui a 18 ou 19 buts, qui est un total assez impressionnant. Et donc en jouant vraiment, en garant le bus devant le but de Gauquelin, avec deux lignes de 4 comme on avait fait à Dunkerque par exemple, et en mettant un mec au marquage individuel strict sur leur avant-centre, on peut éventuellement ramener un match nul 0-0, et ça serait une très très bonne opération là-bas. Maintenant, j'ai pas l'impression que notre défense soit très solide. Grimm, je pense qu'il revient, donc éventuellement il peut être là, donc Grimm, Goliard, Sikimic.
Mais après, sur les côtés, Pino, il est dans le creux de la vague en ce moment. Bamba, il est...
Donc, tu veux mettre trois mecs, tu veux faire un 3-5-2, quoi.
Non, pas forcément. Un 4-5-1, par exemple.
Alors, pourquoi tu mets pas dans l'axe, tu mets Sikimic, Goliard.
Ouais, et un...
Tu
un,
mets
un,
deux, latér- deux latéraux.
Ouais, et un vrai 6 devant.
Et tu mets Grimm devant en 6 pour ouais, casser.
Grimm est bas, double 6.
Hein. Voilà.
Mais à Dunkerque, on a fait ça. On a joué en 4-4-2 avec deux lignes de 4 hyper resserrées. On peut faire la même chose, hein, un Gieselbrecht par exemple côté droit pour verrouiller le couloir, idem sur le côté gauche, c'est faisable, tactiquement c'est faisable. Maintenant il faut de la rigueur défensive, chose qu'on n'a pas forcément vu ces derniers temps.
Défensivement, je trouve que c'est pas forcément qu'on n'est pas bon, c'est surtout qu'on n'est pas bon quand il y a de la place. Je veux dire, quand on est aligné bien derrière, tous serrés, là le bloc il est costaud. Mais c'est vraiment dès qu'il y a un peu de place. Je veux dire, on l'a vu Paris FC, on l'a vu Boulogne. C'est dès qu'ils arrivent à mettre de l'élan, dès qu'ils arrivent à prendre l'élan et nous prendre de vitesse, là, on n'est pas bon défensivement. Mais quand on est resserré, on a un bloc, mine de rien, il est costaud. On ne se fait pas spécialement bouger, on tient le coup.
Non, mais on est capable.
Voilà, donc c'est vraiment juste, comme je suis assez d'accord avec toi, faire un 4-4-2 vraiment très resserré derrière. Et là, je pense qu'on n'aura pas de souci à tenir le match nul.
Mais dans ce cas-là, il ne faut pas s'étonner de ne pas avoir un Perrin ou un Ribas
titularisé. Ah non, mais ça, voilà, ça on est totalement d'accord.
Si par bonheur, Mendy n'est pas suspendu, ce qui m'étonnerait beaucoup...
La jurisprudence Berthomier.
Non, ouais. Non, mais là, ça serait vraiment le match pour Mendy, le seul attaquant dans ce profil-là qu'on est. Donc, nos deux lignes de 4, on balance et démerde-toi Alexandre. C'est, voilà. C'est comme ça qu'il faudrait jouer.
Non, mais c'est exactement ça.
Bon, après, on oublie assez vite que Luznac va arriver en face, hyper motivé. On est les mecs qui n'ont jamais réussi à ramener quelque chose à l'extérieur. Enfin, les gars, ils vont arriver contre nous, ils sont surmotivés. Ils vont pas vouloir nous laisser mettre en place une défense. Ils vont y aller cage de la première minute, je pense, jusqu'à 90e.
Non, mais ils ont le même jeu depuis l'an dernier, en fait. Donc, je pense qu'ils sont assez prévisibles. Tactiquement, on peut les... On peut les cerner tactiquement. Après, effectivement, si en face... individuellement, je pense qu'ils sont un peu meilleurs que nous. C'est vrai que ça fait un peu mal de le dire, mais c'est vrai.
Endo, c'est un Sikimic, il n'y a pas photo. Endo et Sikimic qui revient de blessure, Endo qui est en forme depuis 6 mois, il va y aller à fond.
Fin. Endo, il peut un coup d'épaule, ouais, il peut le faire voler. Sikimic, c'est une belle bête.
Ouais. Ah bah là, c'est du sacré molasse alors.
Ah oui, non,
je vois pas le Endo, je vois pas à quoi il ressemble. Mais...
Comme tous les joueurs nationaux.
Bah comme la comme bon attaquant national.
L'attaquant d'Amiens, moi c'est ma référence au niveau physique. Donc.
Kouyemba
il me semble. Il nous avait fait vraiment très mal là-bas physiquement. Donc
pour Luznac, on est plutôt pessimiste. Bah,
et toi donc
moi, alors non, parce que moi je suis très optimiste. Voilà. Moi je vois une vieille victoire dégueulasse 1-0. On aura campé tout le match et on va marquer un but sur un corner dégueulasse avec Mamadou Niang contre Marseille. Voilà. Vous voyez le truc ?
Ouais, faut appeler du bruit.
On a plus Abel Mfella pour obtenir ce corner.
D'accord. Et oui. Et il y avait pénalty avant pour Marseille sur l'action d'avant. Mais ça, c'est notre histoire.
Ah oui,
mais enfin, les Marseillais ont réclamé pénalty.
Il y avait aussi le match de Bordeaux où Kassar arrête un pénalty de Riera et derrière on gagne 1-0 dans les arrêts de jeu sur le but de Pagis.
Voilà, mais moi, voilà, je vois un match comme ça.
On n'a plus Pagis, ça.
Mais je suis sans doute un.
On n'a plus grand monde, finalement.
Un doux rêveur. Alors, j'aimerais quand même maintenant parler de la suite. La question qui tue, est-ce qu'on va se maintenir cette saison, d'après vous ? Et alors, pendant que vous réfléchissez à cette question-là, je vais quand même citer un post d'Il Vecchio qui parle de la suite de la saison, de l'éventuel électrochoc qui aurait été créé. Et donc lui, en fait, il n'y croit pas trop à cet électrochoc. Et voici pourquoi. Donc lui, il dit « Électrochoc, le mot magique, c'est l'électrochoc qui résoudra tous les problèmes. Quelle forme devrait prendre cet électrochoc et à qui l'administrer ?» Keller n'a même plus la possibilité de faire jouer la concurrence, car entre les blessés, les exilés en réserve pour insuffisance criante de niveau ou autre motif, les suspendus et les en reprise, on se retrouve presque dans une situation fort bacquoise, où François peina à remplir sa feuille de match. Donc voilà, lui ce qu'il dit c'est qu'on ne pourra pas trop faire jouer la concurrence sur la fin de saison, parce que de fait, entre si on enlève tous les gens qui ne peuvent pas trop jouer ou qui ne sont pas bons, et ben, il reste 14 joueurs.
Ça suffit, 14
donc,
joueurs.
Est-ce qu'on peut, comment on peut créer un électrochoc pour la fin de saison dans ce contexte-là ?
On réduit le groupe à 12.
Merci Slade pour cette remarque percutante. On jouait, parce que je jouais à 10, on a essayé, ça marche pas. Hein. Alors, donc fin de saison, plus sérieusement maintenant, est-ce qu'on va se maintenir et si oui, comment, enfin, ou alors comment pourrait-on s'y prendre pour faire mieux que maintenant? Alors, qui veut se lancer?
Attention, David Lady.
On va. Alors oui, sachant que David Lady a repris 3 semaines.
David Lady contre Boulogne.
Je dis justement. Ouais, aurait été utile, Bacon, hein. Mais sérieusement, son retour peut être pas forcément une mauvaise chose. Hein.
Alors David Lady, donc lui, il n'est pas de retour avant 3 semaines.
Ouais.
Donc
à moins qu'il y ait un miracle de retour.
Ça veut dire revenir donc au mois d'avril.
Sprint final.
Ça va être très, ça va être juste. C'est ce qui est dommage. Donc, comment voyez-vous cette fin de saison? Allez, on se lance. On va noter tous vos pronostics et puis on les ressortira dans quelques
temps. D'ailleurs, je tiens à signaler qu'au dernier Radio Stouff, j'ai pronostiqué le bon score et le bon buteur pour Mathieu Gazelec.
Eh bien, du coup, tu vas être le premier à commencer à nous expliquer comment tu vois la fin de saison.
Eh bien, on descend.
Alors, attends, tu vois une descente. D'accord.
Parce que je pense pas qu'on ait l'effectif pour jouer le maintien. Pas forcément au niveau du talent individuel. Au niveau de l'état d'esprit, j'ai pas l'impression. Quand tu joues le maintien, c'est d'autres valeurs que simplement la technique, est-ce que tu es bon offensivement ou pas. C'est aller au combat, c'est un peu cliché de le dire, mais c'est te battre vraiment, arracher les points comme il faut, et pas comme contre Boulogne où on dit qu'on a été héroïque, qu'on a arraché un bon match nul.
Ouais, mais c'est de la com, ça. C'est comme après Luçon où il dit qu'on a tous félicité les joueurs. Je pense que c'est de la com de Keller. Enfin, moi, je prête pas trop attention à ces déclarations d'après-match. Je pense que ce qu'ils disent dans les vestiaires est pas forcément.
D'accord, mais après, c'est ce qu'on voit sur le terrain. C'est pas une équipe qui joue le maintien, c'est ce que je disais avant. C'est quand tu joues le maintien, là, tu essaies d'y aller, quitte à commettre des fautes ou à te montrer un peu agressif. Hein. Là, on voit pas ça depuis qu'on est dans cette situation-là, autour de la ligne de flottaison de la charrette. Donc là, je pense que le match à Luzinac, on va en chier. Au mieux, on arrache le match nul, donc là, ça peut être fondateur, mais on peut tout aussi bien prendre 3-0 là-bas, s'effondrer totalement, et après, contre Amiens... On peut vivre une soirée cauchemar.
Donc à tort et pessimiste. Alors est-ce que
on n'a pas l'effectif pour jouer le maintien, voilà. C'est...
Donc toi tu dis qu'on n'a pas les guerriers, un peu les mecs qui ont le mental pour jouer ça.
Alors qu'on les avait l'an dernier.
Même si balle au pied, peut-être qu'ils ont le niveau pour jouer plus haut. Alors Nitro, tu te lances.
Moi je veux dire qu'on va se maintenir parce que honnêtement, j'ai toujours pas réalisé le fait que c'est la descente soit aussi proche. Maintenant, je pense que justement, par rapport à cet esprit guerrier, je pense que le retour de Sikimich va faire du bien. Parce qu'à mon avis, lui, quand il est dans le vestiaire et qu'il parle, qu'il ouvre la bouche, à mon avis, les autres la ferment et l'écoutent. Et je pense que c'est vraiment un gars qui, lui, peut pousser le collectif et peut pousser le 11 titulaire à se dépasser. Parce que Sikimich, je pense que c'est quand même l'incarnation d'esprit guerrier dans l'équipe. Après, voilà, c'est... Moi, je pense que le match à Luznac... Il ne sera pas tant déterminant que ça. Je pense que ce sera celui d'Amiens. C'est à la Méno. Si jamais le Racing perd une nouvelle fois à la Méno et est mené au score, 1-0, ça ne sentira pas bon. Mais à 2-0, je pense que la Méno va se lâcher. Ça fait quand même pas mal de temps que ça commence à gonfler et qu'on sent que dans les tribunes, on a la limite de siffler. D'ailleurs, je pense qu'on a connu la Méno un peu moins clémente que cette saison. Mais au film, je pense que ce sera le match à Amiens qui va déterminer la suite de la saison.
Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir une sale ambiance contre Amiens. Si ça rigole pas, ça va être...
Si ça, à mon avis,
faut que les joueurs fassent gaffe à leur voiture.
S'ils y arrivent.
On plaisante, évidemment. Alors, Vrombi Mickey.
Ben, moi, je sais pas trop quoi dire parce que la dernière fois que je suis venu à Radio Ftoub, on m'avait posé la même question pour l'ensemble du championnat et j'avais eu la bonne idée de dire qu'on se maintiendrait tranquillement. Donc... pronostic loupé, donc j'imagine qu'on va se sauver, enfin j'ai envie de croire qu'on va se sauver, mais effectivement ce sera pas du tout simple quoi, on va galérer jusqu'à la dernière journée, je sais pas contre qui on joue,
ni
Red Star à domicile,
finale.
Voilà, donc on peut s'imaginer une finale à la Méno.
Un Red Star qui a 33 points aujourd'hui qui semble
être une bonne dynamique.
Ils semblent mieux, mais bon, c'est pas fini non plus.
Ils semblent hors de. Voilà.
Donc, j'ai envie de pronostiquer qu'on va se maintenir. Après, en dire plus.
Bien, alors écoutons à présent Slade.
Ben, je suis un peu un déçu puisqu'il y a Et quoi, il y a encore un mois et demi, je croyais vraiment qu'on allait monter. Et vraiment, vraiment, j'y croyais. Enfin, le côté un peu genre punk, on monte, on finalise pendant 3 ans, quoi. On la gagne. Enfin, j'avais vraiment cette idée-là, j'avais vraiment envie d'y croire. Puis après, j'étais un peu déçu. Puis j'ai cru au maintien facile qui, d'un côté, m'a jamais vraiment convaincu. Et puis là, bah, ma part de supporter veut croire au maintien parce que pour moi, le Racing, ça peut pas descendre en CFA, mais on y était déjà. Et puis quand on était en Ligue 2, qu'on allait descendre en National, j'y croyais pas non plus à descendre parce qu'on était le Racing. Mais là malheureusement, ça commence un peu à sentir mauvais. Et puis je crois surtout que je pardonnerai jamais aux joueurs d'être descendus. Enfin, je pourrais pas leur pardonner d'avoir fait ça pendant une saison entière où pendant 10 mois ils se sont cherchés les uns les autres, ils ont jamais cru vraiment à ce qu'ils faisaient. Donc malheureusement, mon côté rationnel pense à la descente ou sauvetage, hein, aussi, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a pas mal de clubs qui vont déposer le bilan. Amiens le premier. J'y crois vraiment.
Van et Uzès aussi.
Alors, en point de règlement.
Ah, mais ils descendent des champs.
Point de règlement, on maintient donc si un club de.
National.
De national dépose le bilan, on repêche un club de national.
Ouais. Ou si un club de CFA qui monte ne peut pas monter,
on repêche. Voilà. D'accord. Bon, si on est quand même réduit. Si on en est réduit. Mais encore faut-il ne pas finir dernier. Enfin, avant-dernier, on va dire.
Finir premier relais, quand
même. Parce qu'on va dire que Uzès. Ils ont 8 points de retard, a priori, eux, sont dans la charrette et ils seront derniers. Après, il y a quand même 3 clubs, Racing, Amiens et Vannes, qui sont au coude à coude. Bon, il y a Luçon qui a le nombre de points. Et c'est pas dit qu'on finisse. Si on finit relégué, on peut finir, comme là aujourd'hui, on peut finir 17e. Et donc, pour rêver de ça, il faudrait être 15e quand même. Hein. Voilà. Alors,
Pour faire la petite parenthèse Uzès, eux, ils rêvent que de ça, de redescendre. Enfin, on en avait discuté avec le directeur sportif là-bas. Eux, ils ont été maintenus, donc justement, avec toutes ces difficultés administratives des autres clubs, ils avaient été maintenus en national comme ça l'an dernier. Et on en discutait avec le directeur sportif. Pour eux, c'est une plaie d'être en national. Ça leur coûte plus cher que ça ne leur rapporte. Donc s'ils ont le moyen de redescendre, ils demanderont que ça. Alors, ça en fait déjà un en plus d'Amiens qu'on peut compter comme éliminé.
Bah, Amiens, ils ne sont pas éliminés.
Non, mais... Ils sont pas bons non plus.
Slade.
J'aurais juste aussi rajouter que plus on finira tard la saison, plus on commencera tard la nôtre l'année prochaine. Parce que si on veut jouer la montée l'année prochaine comme Keller semble y penser encore, enfin il faudra commencer à... Je me rappelle encore dans le discours de François Keller qui pensait qu'on allait finir 4e ou 5e pour jouer tranquillement le maintien, puis ensuite bien préparer la saison, parce que des joueurs ça se trouve assez tôt dans une saison, surtout nationale. Il faut convaincre les mecs de venir, il faut leur parler d'un projet sportif auquel personne ne croit encore. Et là, plus on finira tard, et si en plus on joue sur les relégués, bah, enfin sur les repêchés administratifs, on finira la saison quoi, fin juillet, on la commencera début août, on aura une équipe façon CFA2 avec des mecs auxquels personne ne connaît, personne n'a envie de croire, et ça sera une descente l'année prochaine. Enfin, faudra pas se leurrer, quoi. Il faut se maintenir le plus tôt possible. Et ça va être dur.
Voilà, donc on a tous... Ah oui, il faut que je pronostique. D'autres. Alors, donc moi je vais pronostiquer... Pas facile, hein, vos questions à la con. Hein. Allez, moi je vais parier sur un maintien quand même. Une 13e place. Voilà. Je pense qu'on va quand même se maintenir. Et notamment parce que j'ai pronostiqué une victoire dégueulasse contre Luznac, donc il faut que je sois cohérent. Voilà, après. Voilà. Et puis, mais je suis d'accord avec ce Freddy Slade, c'est que même si on se maintient à la dernière journée. Ça veut dire ça sera difficile de commencer à poser des jalons pour la saison suivante si l'avenir est incertain.
Moi j'ai quand même l'impression d'avoir senti dans certaines déclarations de Marc Keller dans la presse le fait que cette saison c'est vraiment faut se maintenir, mais qu'après j'ai l'impression que cet été il y a un gros travail qui sera fait sur l'effectif. Je pense que Marc Keller, il est critiquable, mais je pense que niveau foot, il s'y connaît un minimum. Et je pense qu'il voit bien que l'équipe sur le terrain, elle a rien pour monter. D'ailleurs, il y a un Stubis qui a balancé un post, une rumeur, je ne sais pas si elle est vraie, que Marc Keller, en fait, aurait déjà décidé de remplacer François Keller cet été. Il a sorti ça. Après, voilà, c'est tout le temps le « j'ai une source proche de nanani nanana ». C'est toujours dur à croire.
C'est qui ce Stubis ?
Je ne sais même plus son pseudo.
C'est JP quelque chose.
D'accord.
Ouais.
Et ça me paraît pas incohérent d'ailleurs, vu le caractère de Mark Keller, de qu'il prenne une décision comme ça un petit peu.
Bah, c'est meilleur service qu'on peut rendre à François Keller.
Ouais, enfin, je pense.
Je pense qu'en plus, il en aura marre, il va commencer à se poser des questions.
Parce que déjà à l'époque, on parlait déjà, avant le fait qu'il reprenne l'équipe en CFA2, ça, dès qu'il y avait un changement d'entraîneur, on disait ouais, François Keller, il a depuis 15 ans, etc., etc. On a toujours voulu le voir. Maintenant, on l'a vu, je pense que s'il arrive à se maintenir, il aura fait son maximum. Mais effectivement, si on a des ambitions un peu plus hautes, je pense que la saison prochaine, il faudra faire quelque chose d'autre. Mais je pense que le temps qu'on se maintient, à mon avis, les efforts seront faits pour attirer des joueurs.
Après, il y a des efforts, enfin, tu as les efforts financiers que tu fais pour attirer des joueurs. Mais il faut être cohérent. Les joueurs, ils vont regarder ce qu'on a fait cette saison, ils vont voir ça. Et je suis pas sûr
qu'ils croient vraiment. Si on leur montre le stade, les deux montées consécutives, le maintien, etc., avec un bon salaire, à mon avis, les mecs, ils vont pas faire les difficiles.
Bon, bah, on va taper dans les joueurs de Ligue 2 déjà. Donc, l'argument du stade, il est de moins en moins recevable pour ces joueurs-là. Hein.
Oh, enfin, même en Ligue 2, la Méno, ça fait rêver. Hein.
Après, est-ce qu'ils ont envie juste de voir un stade, on se rappelle de, je sais plus, Mbongo qui avait peur du stade. Enfin, oui. Si on commence à avoir ces mecs-là qui ont peur de jouer dans un gros stade et qui font des bons résultats en dehors, bah perso, moi je préfère les mecs qui, je sais pas, qui sont un peu, voilà, qui ont pas trop du bon football, mais qui ont vraiment envie, qui veulent monter quoi.
Ouais, quand même des bons joueurs, s'il te plaît, on a assez.
Enfin bon, on a pas assez.
Ah, mais après, c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs qui sont en fin de contrat.
C'est pour ça que il y a tout qui coïncide.
Il y aura une grande lessive qui va être faite. D'un côté, le maintien, il est vraiment vital pour le projet, puisque là, on est vraiment à une étape.
Je pense qu'une descente, ce serait dramatique.
Alors, je pense qu'on parlera pas la descente aujourd'hui, mais dans une prochaine émission, on imaginera
le Racing,
le Racing au CFA, qu'est-ce qui se passe.
Une émission spécialement pour ça.
Et je pense qu'on invitera Strotim, qui est assez bon pour ce genre de saloperie en général.
Oh, mais il est en plus assez virulent contre Boulogne. Donc.
Et du coup, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. Donc je pense qu'on va refermer cet opus en espérant donc avoir des choses plus positives à commenter la prochaine fois. Bien, et bah écoutez, voilà, c'est terminé pour ce soir, donc je vous dis à la prochaine fois et allez Racing, Racing. À poil.